Le Seigneur vous bénisse. Bonjour, amis. C'est certainement un privilège d'être ici encore ce matin dans le service du Seigneur. Et je suis si navré que nous n'ayons pas suffisamment d'espace pour placer les gens dans la petite église. Elle n'en contient pas beaucoup, mais nous sommes très heureux que vous soyez ici et que vous consentiez à faire ce sacrifice d'entendre patiemment sur nous. Et nous ferons de notre mieux pour vous apporter la parole du Seigneur du mieux que nous pouvons vous l'apporter. Et maintenant, j'ai juste cette petite dame qui vient d'entrer. Elle a un bébé qui doit être consacré ce matin. Et ensuite, elle a vu qu'il se faisait plutôt tard et elle a dit qu'elle attendrait. Je n'ai jamais vu cette femme auparavant, mais je prie que Dieu la bénisse et lui donne la plus riche de ses bénédictions dans son cœur à cause de ce qu'elle a attendu si patiemment. Maintenant, nous arrivons au moment de l'année où il fera plus froid et ce ne sera pas si chaud quand nous serons tassés dans l'église. Et nous avons confiance que Dieu bénira richement chacun de vous. Maintenant, je voudrais dire juste quelque chose ici, juste avant de parler. J'avais dit que j'allais, en parlant ce matin, si Dieu voulait, parler sur le sujet « Les vents dans le tourbillon ». Mais il vient de le changer juste pour moi. Je ne sais jamais ce que je vais dire, jusqu'à quelques minutes avant de venir à la réunion. Et j'ai essayé une deuxième fois encore sur ce sujet, et j'ai échoué de recevoir la réponse de Dieu. Je ne sais pas pourquoi. J'aime toujours, comme vous les ministres le savez, vous devez vous attendre au Seigneur pour ce que vous allez dire. Et hier soir, sur la ligne privée, j'ai eu un appel qui venait de loin, de quelque part en Arkansas. Des gens voulaient déménager ici cette semaine qui vient. Ils ont dit qu'ils avaient entendu dire que nous étions sur le point de commencer une réunion sur les 7 sceaux. Je viens de terminer les 7 âges de l'Église pour les étrangers et son mari vient lundi pour obtenir un travail à Louisville afin qu'il puisse travailler pendant qu'il demeure assez près pour entendre ces 7 sceaux. J'ai dit, cela prendra environ 3 mois, madame. Nous n'avons pas de place ici pour annoncer la réunion et ainsi de suite. Rien pour prendre soin de cela ici dans la ville. Rien pour asseoir les gens. J'aimerais bien une fois, peut-être si Dieu le veut, d'avoir cela dans les campagnes quelque part, de planifier une réunion de 3 mois et de simplement commencer à travers ces sauts comme cela au travers de la campagne. Alors les gens pourraient y demeurer tout au travers de cela. Ici, cela court du 6e chapitre de l'Apocalypse jusqu'au 19e. Alors, vous obtenez les 7 sceaux, les 7 plaies, les 3 malheurs, la pharmacie sur la bête de couleur pourpre et les 144 000. Oh, il y en a tellement qui vient se lier à cela avant que le 7e sceau ne soit donné, que la 7e plaie tombe, la 7e trompette sonne. Il y a tellement de ces choses qui se lient toutes ensemble. Et chacune d'elles est une grande leçon quotidienne en elle-même. Maintenant, inclinons nos têtes pour un moment, pour un mot de prière. Et avant que nous prions, y en aurait-il ici qui voudraient qu'on se souvienne d'eux dans cette prière? Alors faites-le savoir en levant vos mains. Et dans votre cœur, pensez à Dieu exactement ce dont vous avez besoin maintenant. Et je prie qu'il vous le donne. Très puissant et gracieux Dieu, qui est un Dieu qui répond aux prières, un Père qui connaît tout ce dont ses enfants ont besoin, tu nous as connus avant que nous ne naissions, et tu as compté nos pas, les cheveux même de notre tête sont comptés, et nos paroles sont pesées dans ta balance. Alors, Seigneur Dieu, fais en sorte ce matin que nous prenions attention à ces choses, cette obligation solennelle que nous avons devant toi. Plusieurs de ces mains se sont levées ce matin ici, dans cette petite assemblée. Peut-être était-ce pour une prière pour leur corps malade, pour un bien-aimé perdu. Tu connais leur cœur et tout ce qu'il y a en eux. Car quand tu t'es tenu ici sur la terre, dans la forme d'un être humain, appelé Jésus, notre Seigneur, tu connaissais les secrets même des cœurs. Tout ce que le monde pouvait imaginer dans leurs pensées, tu pouvais leur redire aussitôt tout ce dont ils pensaient. Pourquoi raisonnez-vous dans votre cœur au sujet de ces choses? Jésus, percevait leurs pensées. Et nous lisons dans l'Écriture que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et il est aussi écrit que là où deux ou trois sont assemblés ensemble, là je serai au milieu d'eux. Alors tu es ici ce matin, dans la forme du Saint-Esprit, et tu connais chaque désir qui est sur le cœur des gens. Je te prie, Dieu notre Père, que tu leur parles en retour en disant « C'est accompli ». Ta requête a été reçue et je t'envoie l'assurance en ce jour que tout ce que tu as demandé a été accordé. Ô Dieu, nous rappelons spécialement ceux qui ne sont pas sauvés, qui ont levé leurs mains, que ceci soit l'heure où ils reçoivent Christ comme leur sauveur. Et avant que la réunion ne se termine aujourd'hui, que quelque chose se produise, Seigneur, qui amènera ta présence si près des gens, afin qu'ils sachent que ce même Jésus qui marche en Galilée se tient au milieu de ces gens, et qu'ils repartiront peut-être d'ici aujourd'hui avec la même assurance que ceux qui sont venus d'Emmaüs cette fois-là. Quand ils revenaient de leur route, après avoir marché avec lui tout le long du jour, parlant avec lui et lui parlant avec eux, et par contre ils n'avaient pas d'idée que c'était lui. Ô Dieu, tellement de fois nous sommes comme cela. Tu nous parles dans le coucher du soleil, dans le chant des oiseaux, dans le bruissement des feuilles, dans la floraison des fleurs, dans les cantiques de l'Église. Et nous reconnaissons tellement peu que c'est toi. Dans les chambres des malades à l'hôpital, dans plusieurs autres endroits, tu nous parles. Et nous réalisons tellement peu que c'est toi. Maintenant, Seigneur, comme nous retournons à nos foyers ce matin, que nous te reconnaissons comme eux, puisses-tu faire quelque chose aujourd'hui au milieu de nous, tout comme tu l'as fait là-bas. Ils connaissaient la chose que tu as faite devant eux. Tu l'as faite avant ta crucifixion. Alors ils surent que c'était le Seigneur ressuscité. Ils retournèrent à leur groupe se réjouissant et louant Dieu, car ils savaient qu'il était vivant. Et ils ont dit, nos cœurs n'ont-ils pas brûlé au-dedans de nous alors qu'ils nous parlaient tout le long du chemin? Seigneur, ton apparition là et faisant quelque chose comme tu l'as fait avant ta crucifixion, cela a prouvé ta résurrection, que tu étais le même Jésus qui leur a causé de se rappeler toute leur conversation avec toi. Parle-nous toute la semaine, Seigneur. Maintenant, apparaît au milieu de nous et fais-toi connaître à chaque cœur nécessiteux, car nous le demandons au nom de Jésus et à cause de lui. Une sœur parle dans une autre langue et un frère donne une interprétation, note de l'éditeur. Maintenant, la congrégation priera. Frère Branham et la congrégation prient, note de l'éditeur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi est le règne, et la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Si mon stylo était un outil de sculpteur, et si mon papier était de la pierre, et ces paroles que je dis maintenant, qu'elles soient gravées sur ceci, afin que cela aille à tous les peuples. Car le Saint-Esprit de Dieu a des manières étranges de traiter avec ces gens, avec son peuple. Plusieurs fois, par des prodiges et au travers des dons et des appels qui sont sans repentance, que Dieu leur donne pour son peuple par sa grâce. Et je suis à la maison maintenant, pour un petit temps de vacances. Je prends ordinairement ce temps à la maison, car environ à cette période de l'année, j'aime me relaxer en allant à la chasse à l'écureuil. Et je suis descendu au Kentucky avec mes amis cette semaine, chassant l'écureuil, ce qui est mon sport favori. D'une manière ou d'une autre, j'étais découragé, pas exactement parce que je ne pouvais pas trouver d'écureuil, mais je me sentais simplement découragé. Quelque chose me disait que je devais retourner à la maison, et j'ai dormi dans l'auto en revenant. L'an dernier, comme vous le savez tous, ce qui est sur imprimé aussi en témoignage et sur les bandes, j'étais assis à un endroit ici, en Indiana, où le Seigneur Dieu est descendu et il m'a parlé que mon second ministère, qui était prêt de prendre place dans le proche avenir, et il appela en existence 3 écureuils. Et vous connaissez tous l'histoire, j'en suis certain. Par contre, montant la route, pendant que je laissais le reste des gars là au loin, en allant chasser, j'ai eu un curieux sentiment pour aller à cet endroit encore. C'était juste avant le jour, il pleuvait. Je ne savais même pas s'il parviendrait à chasser ou pas. Mais, alors que j'arrivais dans le champ là, chasser veut dire devenir seul pour vous-même, prier. Alors j'ai arrêté la voiture et je suis sorti, j'ai traversé la route, je suis allé dans le buisson et juste avant que ce soit le jour, un peu gris, l'aurore. J'étais arrêté et j'avais offert un petit mot de prière comme d'habitude en disant « Père, que exactement ce dont j'avais besoin tu y pourvois. Je ne crois pas qu'il faut gaspiller quoi que ce soit ou détruire. Je n'ai jamais tiré un oiseau de ma vie juste pour une pratique de cible ou quelque chose, rien d'autre. Ce que je chasse, je le mange ou je le donne à quelqu'un qui le mange. Je ne crois pas qu'il faille gaspiller rien du tout. Je ne crois pas à faire ces choses parce que ce n'est pas bien. » Et ensuite, alors que je tournais pour commencer le long d'un petit sentier familier, du côté d'un pâturage qui traversait dans la forme L dans les bois, quelque chose d'étrange arriva. Toutes mes expériences, je n'ai jamais eu rien comme cela. Je regardais au haut de la colline, à ma gauche, d'où je me tenais. Et là, sortant du haut de la colline, sont venus 3 arcs-en-ciel. Et ils parcouraient à peu près quelques 30 pieds de haut. J'ai regardé, j'ai vu la lumière, je me suis juste tourné parce que je pensais que ce pourrait être le soleil se levant. Mais sur la seconde pensée, ce n'était pas vers le soleil, c'était vers le sud. Et une autre chose, c'était doux, nuageux, pluvieux, pleuvant partout. C'était le 25 août, vendredi matin dernier, et vous savez comment il pleuvait. Et il y avait des nuages doux partout. Et j'ai regardé encore, et c'était là, croissant encore plus grand, 3 arcs-en-ciel. Alors j'ai enlevé mon chapeau, j'ai appuyé mon fusil, j'ai commencé à marcher vers ça avec mes mains levées, et quelque chose semble me dire, ceci est assez près. Et j'allais m'asseoir, et j'allais enlever mes bottes que j'avais, pour voir si je pouvais marcher un peu plus près. Mais je suis arrivé à quelque distance de cela, et j'ai vu la couleur de cela. Cela était comme un brouillard qui circulait. Je me suis tenu tranquille pour quelques instants. Cela sortait directement du haut de la petite montagne. Et j'ai surveillé comment les 3, un à la droite, un à la gauche, un au centre, descendant comme dans un bol, exactement comment cela était. C'était vivant, cela bougeait, cela faisait des mouvements. Et je me tenais là, comme cela devenait gris, l'aurore. Et je me suis retourné, et j'ai regardé à nouveau, et je me suis écrié, « Oh Dieu, que voudrais-tu que ton serviteur sache ?» Et juste alors, l'Esprit du Seigneur est venu et a dit, « Le Jésus du Nouveau Testament est le Jéhovah de l'Ancien. Il change seulement son masque d'esprit jusqu'à l'homme. » C'était la confirmation, bien sûr, mon message de lui, me faisant savoir assurément que ces 31 ans n'ont pas été en vain. Et alors que je commençais à m'approcher, cela a commencé à s'éloigner, cela est descendu comme quelque chose dans un bol, et ensuite cela a disparu. Et j'ai marché tout près de cela, j'avais peur d'aller plus près, parce qu'il m'avait arrêté avant que je n'y arrive. Je me suis tourné, et j'ai remarqué que cette lumière, la manière dont elle brillait pour moi, était exactement en ligne avec l'arbre où j'étais assis l'an dernier, là où les écureuils apparurent. Quelques 35 ou 40 minutes plus tard, j'ai traversé les bois et par-dessus les fonds de ruisseaux et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive à cet arbre qui sépare en 4 directions est, nord, ouest, sud, 4 fourches de l'arbre qui courent. J'ai grimpé dans cette fourche, je me suis assis là, là où j'étais, quand il m'a dit cette écriture, « Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là !» Et comme je me tenais là un peu, ne pensant pas encore à l'arc-en-ciel, cela avait quitté ma pensée, je me tenais là, Et ceci a été une très mauvaise année pour la chasse à l'écureuil. Tout état, pas d'écureuil. J'ai pensé, c'est juste ici que Dieu m'a donné ces écureuils l'an dernier pour que je les appelle en existence par la parole. J'enlevais mon chapeau à nouveau et j'ai dit, Seigneur Dieu, tu es le même Jésus, tu es toujours Dieu. Et quelque chose m'a dit, combien en veux-tu cette fois-ci? J'ai dit exactement comme j'ai demandé l'autre fois, la même limite. Et ensuite j'ai dit, j'aurai cette limite avant 10 heures ce matin. Et aussi étrange que cela semble, juste alors, j'étais dans une très mauvaise zone de maringouins, où c'est infesté de maringouins, une sorte de terrain marécageux, et un très gros maringouin vint pour le piquer juste près de l'œil. J'ai dit, pas un seul d'entre eux va me déranger aujourd'hui. Aucun insecte ou rien avec moi. Et avant que je ne le sache, j'ai dit, le soleil brillera avant 30 minutes. Et je n'avais pas aussitôt dit cela, que juste derrière moi, un écureuil, tout comme celui-là de l'an dernier, jeune, rouge, a sauté en dehors sur la branche, environ à quelques distances de moi, commença à crier, je me suis tourné. Et à cette grande distance, je ne pouvais à peine, par le puissant télescope, voir son œil. J'ai simplement tiré, c'est tout. Je n'avais même pas une visée un peu plus qu'au-dessus de l'écureuil. Et la balle fut exactement plein dans l'œil où ce fut l'autre fois. J'ai continué à travers les bois, exactement à 3 minutes avant 3 heures, j'ai tiré mon troisième écureuil, tout comme c'était l'an dernier, exactement la même chose, 3 minutes avant 10 heures. Dieu étant mon juge solennel, pas un seul petit insecte n'a même bourdonné pendant toute la journée, là où il y en a justement des tonnes. Je suppose s'il pouvait se peser. Et je n'ai même pas vu ou entendu un. J'écoutais pour cela, pour voir si je le pouvais. Et j'ai entendu un bourdonnement, j'ai pensé, il y en a un quelque part. Et j'ai écouté, et c'était un camion tout au loin sur la grande route. Et exactement 3 minutes à partir de là, le soleil brilla bien haut et éclatant. Alors, je suis revenu à cet endroit, et je pensais, lorsque j'ai dit la limite, cela voulait dire 5 écureuils, ce qui est la limite en Indiana. Mais je me souviens l'an dernier, quand il me demanda combien cela me prendrait-il pour me donner une portion, j'ai dit 3. Et je venais d'obtenir les 3. Alors hier, je suis retourné au même endroit encore, et quelque chose m'a dit, n'y va pas, traverse la route, et exactement à 10 heures, exactement pile, 10 heures à ma montre, j'ai tiré la limite de l'Indiana, le 5e écureuil. Je veux que vous remarquiez qu'il y avait 3 arcs-en-ciel, et il y avait 3 choses dites, 3 écureuils attrapés, et il y avait 3 choses, 3 écureuils pour 10 heures. Pas d'insecte, le soleil brillerait en 30 minutes. Et il y en avait 3 pour rendre témoignage de cela. Frère Benchwood, mon fils Billy Paul et son fils David pour rendre témoignage de cela. Et quand j'ai vu ces arcs-en-ciel, environ aussi larges que cette auréole, cet ange du Seigneur, mais il y en avait 3 se rencontrant en un. Oh, comme cela a aidé mon cœur de connaître ce Dieu. Jésus n'est pas un homme comme les gens pensent qu'il est, seulement un prophète, comme cette idée moderne aujourd'hui. Ils pensent que Jésus est seulement un prophète. Il est Jéhovah de l'Ancien Testament, qui a été fait chair et qui habita parmi nous. Et là, cela m'a certainement réconforté. Alors, pensant à ce sujet, que Dieu avait recherché tant de gens, maintenant il y a un groupe de gens qui s'appelle unitaire, l'autre Jésus seul. Je ne suis pas d'accord avec eux sur leur théologie. Je ne suis pas d'accord non plus, pas d'accord avec ce groupe trinitaire qui dit qu'il y a 3 dieux différents, l'extrême des trinitaires. Mais je crois que les 3 Père, Fils et Saint-Esprit sont un, qu'ils sont 3 offices d'un seul Dieu. Il vécut dans la paternité, dans la colonne de feu. Il vécut dans le Fils, en Jésus-Christ. Et il vit maintenant dans le Saint-Esprit, dans son Église. Le même Jésus qui a été fait chair et habita parmi nous est avec nous en ce jour, parmi nous, dans la forme du Saint-Esprit. De toutes les expériences, quand je me suis premièrement tourné, que je l'ai vu, pensant d'abord que cela pouvait être le soleil perçant à travers un nuage quelque part, mais c'était avant que le soleil ne se lève. Alors que je me suis tourné à nouveau et j'ai vu que ce n'était pas une lumière, que cela était des arcs-en-ciel. Et ensuite, quand j'ai regardé et j'ai vu cela, je suis devenu comme engourdi de partout. Quelqu'un m'a dit justement, n'as-tu pas ressenti le désir de crier ? Non, je ne me ressentais pas comme pour crier. Ces expériences que vous faites ne vous font jamais vous ressentir comme dans le besoin de crier. Il vous faut simplement vous sentir ancré là où vous savez que quelque chose vous a dit juste un sentiment de satisfaction. Maintenant, ces choses sont la vérité. Je sais que nous avons bien des choses qui sont dites et que souvent les gens disent « Oh, je ne crois pas de telle chose telle que celle-là ». Je ne puis simplement certifier que pour ce que je sais être la vérité et le Dieu Tout-Puissant qui a écrit cette Bible et dont je suis le serviteur, il sait que c'est la vérité. Pensez-y, le jour dans lequel nous vivons, juste avant la venue du Seigneur, Jésus a dit, il y aura des signes dans les cieux et sur la terre, de grandes visions, des soucoupes volantes, des missiles, des temps de perplexité, de la détresse parmi les nations. Il y aura toutes sortes de visions qui créeront la peur sur la terre. Et nous vivons dans ce temps pour voir ces choses. Maintenant, pour le message ce matin que j'ai choisi, je veux que vous vous tourniez avec moi dans les Écritures au prophète Zacharie. C'était mon Zacharie, le quatrième chapitre. C'était mon désir de vous dire ces choses. Plusieurs fois, des choses arrivent et je n'en parle pas, je ne le dis pas. Mais ceci était trop marquant pour moi, et que je le cache à l'Église. Cela doit être dit, et devant Dieu devant lequel je me tiens, c'est la vérité. Je sais qu'il y a un Dieu, et je sais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Emmanuel, habitant parmi son peuple aujourd'hui, dans la forme du Saint-Esprit. Et je sais que la venue du Seigneur approche quand les signes et les prodiges apparaissent. Nous venons de parcourir les sept âges de l'Église et nous avons appris que nous sommes dans le dernier et l'âge de l'Odyssée quand l'Église devient différente, se refroidit, devient une dénomination et s'organise. Les organisations l'ont emporté, le mange, mais une promesse a été faite qu'il y aurait un petit reste. Il y aurait une Église qui serait éparpillée partout, mais Dieu la rassemblerait ensemble et l'enlèverait dans la gloire. Un petit groupe sanctifié quelque part, s'attendant au Seigneur. Alors l'autre jour, quand j'ai eu les 70 semaines de Daniel, me tenant juste ici à la chaire, quelque chose me frappa, je n'ai jamais réussi à m'en éloigner, de voir l'heure dans laquelle nous vivons. Je veux aller quelque part et faire autre chose, et garder cela en dehors de ma pensée. J'ai trop de bien-aimés qui ne sont pas sauvés. Sachant, que puis-je faire pour qu'ils soient sauvés? Qu'y a-t-il que je puisse faire? J'ai prêché l'Évangile. Dieu a fait de grands signes, des miracles, des prodiges, comme il n'a jamais fait depuis le commencement du monde, depuis les jours du Seigneur Jésus, comme il ne l'a jamais fait dans toute l'histoire du temps. Et cela a été fait autour du monde. Et quand même, le monde continue à devenir pire. Mais alors je dois me souvenir que nous vivons dans l'âge de la Odyssée, où ils deviendront pires. Et cela dit qu'il le ferait. Alors, j'ai choisi ce matin, étant donné que ce message fut si attaqué, et une autre chose pour laquelle on me poursuit tellement, c'est de prêcher la grâce. Alors, je veux parler de cela ce matin, alors que je lis le quatrième chapitre de Zacharie, une portion de cela. Zacharie 4, versets 1 à 6 inclus. Et l'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla, comme un homme qu'on réveille de son sommeil. Et il me dit, « Que vois-tu ? » Et je dis, « Je vois, et voici un chandelier tout d'or, et une coupe à son sommet, et ses sept lampes sur lui, sept lampes, et sept conduits pour les lampes qui sont à son sommet, et deux oliviers auprès de lui, l'un à la droite de la coupe et l'autre à sa gauche. » Et je pris la parole et dis à l'ange qui parlait avec moi, disant, « Que sont ces choses, mon Seigneur ? » Et l'ange qui parlait avec moi répondit et me dit, « Ne sais-tu pas ce que sont ces choses ?» Et je dis, « Non, mon Seigneur. » Et il répondit et me parla, disant, « C'est ici la parole de l'Éternel à Zorobabel, disant, « Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Voyez-vous, le message ne viendra pas par de grandes forces ou puissances, mais par l'Esprit de Dieu. Et le dernier verset, le septième verset. « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. grâce, grâce pour elle. Nous sommes tous familiers avec cette écriture, tous ceux qui lisent la Bible. Nous savons que ceci était pendant le temps de la préparation de la restauration du temple. Et Zorobabel était un grand prince parmi les gens. Il avait posé la fondation du bâtiment. Maintenant, vous, je veux que vous revêtiez vos pensées spirituelles, votre veston oint ce matin, alors que nous pensons. Et ce grand prince avait déterminé de rebâtir la maison du Seigneur. Et alors, quand il le fit, il avait posé la pierre du fondement. Et comme nous lisons plus loin, nous découvrons que Dieu a dit, Zorobabel a posé la fondation avec ses mains. Il apportera également la pierre de fête. Je veux que vous remarquiez, il n'a jamais dit qu'il apporterait la pierre angulaire, il apportera la pierre de fête. Et nous savons que l'Écriture dit que Jésus est la pierre angulaire, la pierre maîtresse, et il est aussi la pierre de fête. Maintenant, si nous voulons penser pour quelques minutes que le messager de la septième église devait restaurer la foi des enfants à leur père. En d'autres mots, rebâtir l'Église à nouveau sous la puissance de l'Esprit. Pas par la puissance, pas par la force, mais par mon Esprit, dit le Seigneur. Pas par une organisation, pas par une dénomination, mais par le Saint-Esprit. Dieu fera ressortir une Église dans les derniers jours. Zorobabel, le prince avec Josué, était celui qui devait apporter ou amener cette pierre de fête. Il avait posé la fondation, il avait ramené les gens à la fondation en type, lequel nous savons tous que ce chandelier ainsi de suite, cela représente à la fois les Juifs et l'Église. Ils étaient des branches d'olivier, la Bible dit ici, la branche d'olivier, nous sommes la branche sauvage qui a été greffée dans la racine de l'olivier, les gentils. Et de ces deux branches vinrent des tuyaux qui allaient dans les sept chandeliers d'or pour donner de la lumière aux sept âges de l'Église. Maintenant, rappelez-vous, dans notre enseignement sur les leçons que nous avons parcourues, nous avons pris la grande pyramide, nous avons étudié cela pendant quelque temps, qu'Enoch avait dû bâtir. Et la pierre de fête ne fut jamais posée sur la pyramide. Je suis allé là. L'architecture de cela ne pouvait jamais être remplacée jusqu'à ce jour. Nous n'avons même pas de machine qui pouvait bâtir une pyramide. Pas de puissance, à moins que nous prenions la puissance atomique, qui pourrait bâtir une pyramide parce que c'est trop gigantesque. Des pierres qui pesaient des tonnes et des tonnes et des tonnes, se tenant là, loin, dans l'air, tellement bien assemblées, que même une fine lame de rasoir ne pourrait pas... Elles ne sont pas cimentées, elles sont simplement coupées afin qu'elles se joignent les unes avec les autres. C'est de la manière que devrait être le corps de Jésus-Christ, tellement coupé par le Saint-Esprit, par le grand instrument et outil de Dieu, que nous serions unis comme une personne. Nous ne sommes pas divisés, nous devrions être une personne. Et ça nous démontre qu'aucune machinerie peut faire cela de cette manière. Cela prend Dieu pour faire cela. Pas de mécanique d'organisation, pas de loge. Aucune de ces choses ne pourra jamais le faire, aussi bonnes que soient leurs intentions. Ils ne pourront jamais le faire, parce que cela demande Dieu pour faire cela, le Saint-Esprit. Je ne pense pas que j'ai un billet $1 dans ma poche, mais il y a... Oui, j'en ai un. J'ai un billet $1. Je regrette. Au dos de ce billet $1, vous verrez le sceau des États-Unis sur le côté gauche, regardant vers vous. Et de moi, ce serait du côté gauche. Pour vous, c'est la droite. C'est l'aigle. Et aussi cela dans les armoiries, ainsi de suite. Mais de ce côté-ci, le côté droit, par rapport à moi, vous voyez la pyramide. Et vous remarquez au-dessus de la pyramide est la pierre de fête. Et tout cela est inscrit le grand sceau même sur notre monnaie. Nous devons le reconnaître. Aucun infidèle ne peut écraser le christianisme. Chaque lettre que vous datez date de la naissance de notre Seigneur. Chaque calendrier, tout parle de lui. Et même sur notre monnaie, la pierre de fête qui est Christ. Pourquoi n'ont-ils pas placé la pierre de fête sur la pyramide? Parce que la pierre de fête fut rejetée quand elle vint. Mais maintenant, selon la prophétie, il viendra comme la pierre de fête. Et je veux que vous remarquiez que quand la pierre de fête vient, le prince qui va crier le message criera « Grâce, grâce !» car c'est par grâce que nous sommes sauvés, pas par les œuvres, afin qu'aucun homme ne se glorifie. Et le message de grâce a été piétiné sous les pieds des hommes jusqu'à ce que ça devienne une disgrâce. Quelques-uns se précipitent dans la sécurité éternelle, quelques-uns se précipitent dans tout, mais le véritable message de grâce demeure le même. Mais voilà où Satan essaie de le faire sortir hors de l'Église. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes tous sauvés. Alors, dans la divinité de Jésus-Christ, si le Seigneur Dieu pouvait venir là et confirmer que ça est la vérité, pas seulement cela, mais par sa parole, il confirme que c'est la vérité, et par des signes et des miracles, il confirme que c'est la vérité, alors aussi, la grâce est la vérité. Alors pourquoi quelqu'un voudrait-il critiquer et dire que la grâce est fausse, que nous sommes sauvés par les œuvres? Nous sommes sauvés par grâce. Cela vient de la foi, pas par les œuvres. Les œuvres démontrent que vous avez été sauvés. Mais ce qui vous sauve, c'est la grâce de Dieu. Dieu vous sauve. La grâce est ce que Dieu fait pour vous. Les œuvres sont ce que vous faites pour Dieu pour montrer votre appréciation de ce que Dieu a fait pour vous. Mais par la grâce, vous êtes sauvés. Quelques-uns pensent, parce que je vais joindre l'Église, je vais mettre mon nom sur le livre, c'est tout ce que j'ai à faire. Quelques gens pensent, parce que je crie, c'est tout ce que j'ai à faire. D'autres pensent, parce que je parle en langue, c'est tout ce que j'ai à faire. Ce n'est pas ainsi. C'est la grâce de Dieu qui vous sauve. La grâce infinie de Dieu. Ce ne peut dépendre d'aucun mérite. Quelques-uns ont dit, eh bien, il y a un grand homme. Cet homme, j'ai entendu dire qu'il se lève, qu'il fait ceci, j'ai entendu dire qu'il se lève, qu'il fait cela. Mais Paul a dit dans 1 Corinthiens 13, « Bien que je parlerai les langues des hommes et des anges, bien que j'ai le discernement, bien que je fasse des dons pour nourrir les gens, que je prenne tous mes biens pour nourrir les pauvres, même si je peux bouger les montagnes avec la foi, même si j'ai la connaissance pour comprendre toutes choses, je ne suis rien jusqu'à ce que l'amour entre. » Ce qui est la grâce. Dieu doit le faire. Vous pouvez faire toutes ces choses et quand même être perdu. C'est la grâce qui vous sauve. La grâce de Dieu pour la race humaine. De penser à lui. Je pensais à cette grâce immédiatement quand cela a apparu dimanche matin juste au lever du jour. Là-bas dans ce champ, quand je me suis assis sur une bûche plus tard et les larmes coulaient de mes yeux. Oh Dieu! Ta grâce s'est abaissée pour me sauver. Pourquoi as-tu jamais eu une telle pitié pour un pauvre malheureux illettré tel que moi-même? Comment as-tu pu descendre dans notre humble petit tabernacle où la paix, les gens de basse catégorie de la vie, les pauvres, ceux qui n'ont rien de ce monde, et quand même ta grâce s'est répandue partout dans mon cœur par le Saint-Esprit. Tu as guéri nos maladies. Tu nous as sauvés de nos péchés, sauve-nous de nos péchés plutôt, et fais de nous ton peuple, agis avec nous. Et ensuite, j'ai pensé à David, quand il a eu l'idée de bâtir une maison au Seigneur, il a dit, ce n'est pas bien pour moi de vivre dans une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de mon Dieu, et sous des peaux de chèvre, dans un tabernacle. Et Dieu a dit au prophète, va dire à mon serviteur David, je l'ai pris de la bergerie, pour nourrir ces quelques brebis de son père là-bas, j'ai fait de toi un grand nom comme les grands hommes de la terre. J'ai pensé à la grâce de Dieu. Comment il pouvait faire cela, sauver à l'extrême, qu'ensuite il prendrait un pauvre misérable comme moi et qu'il me donnerait l'occasion de prêcher l'Évangile et de voir les autres être sauvés, les voir guéris, voir des foyers qui étaient brisés, être à nouveau redressés, voir des vies qui étaient ruinées, être à nouveau droite, et de me donner la grâce. J'ai pensé, oh, grâce infinie, ensuite venir à un pauvre chasseur d'écureuils dégradé là dans les bois, et de se former lui-même dans la forme de l'arc-en-ciel, ce qui veut dire une alliance, avec un message qu'il me donna à prêcher, et de le former là dans une alliance qu'il est derrière tout cela, et il sera derrière cela, parce que le message et Jésus-Christ est sa gloire. Et comme il m'a laissé aller partout à travers le monde, tout autour du monde, pour les nations, vers des millions de gens, j'ai vu des milliers venir au Seigneur et l'accepter comme sauveur personnel. Tu les as vus remplis de sa bonté et sanctifiés par ta puissance. Tu les as vus guéris par ta grande puissance omnipotente. Alors, je peux crier comme le prophète et dire, ce n'est pas par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Pas par l'éducation, pas par la théologie, mais par l'Esprit de Dieu, il sauve le peuple. Par l'Esprit de Dieu, il guérit le peuple. C'est l'Esprit de Dieu qui donne le message aux gens. C'est l'Esprit de Dieu qui confirme la parole. Nous avons des théologiens aujourd'hui. Nous avons des docteurs en divinité. Nous avons de grands hommes partout à travers le monde qui sont éveillés, intelligents, éduqués. Mais cela prend la simplicité de croire en Dieu pour faire parler sa parole, pour démontrer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Cela demande un cœur humble, consacré à Dieu, pour conduire ou apporter Jésus-Christ au temps présent. Amen. Si cela avait pris la théologie, que feraient les presbytériens, les méthodistes, baptistes, catholiques, ainsi de suite? Nous n'aurions pas une chance, nous les pauvres gens, sans éducation. Mais cela ne prend pas la connaissance, pas par la puissance, ni par la force, seulement par mon esprit, dit Dieu, je dévoilerai ce mystère. Et il criera sur elle, vers elle, grâce, grâce, avec des cris et des acclamations. Et c'est ce que c'est aujourd'hui, la grâce infinie de Dieu pour son peuple. Comment il prend les illettrés, ceux qui n'ont pas d'instruction, et il montre que Jésus est le même. Quand il va, il n'est jamais venu au grand théologien, il n'est jamais allé vers Caïphe le grand prêtre, seulement pour être condamné par lui. Mais il prit des pécheurs, des hommes qui étaient pauvres, qui marchaient dans une vie tout à fait commune. Et à cela, il s'est révélé lui-même, et il a dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. » Montrant que sa grâce s'est même abaissée des Juifs jusqu'aux gentils, pour appeler un peuple pour son nom dans les derniers jours, comme nous venons de juste parcourir cela. Grâce infinie, comme le son en est doux. La grâce est vieille. La grâce est aussi vieille que le monde. La grâce est premièrement apparue à la race humaine, quand nous avons eu un commencement de la race humaine. Quand la race humaine fut créée, premièrement dans le jardin d'Éden, en ce matin sombre, quand cette petite femme traversa la ligne de séparation, et qu'elle a agi contre les commandements de Dieu, et qu'elle a séduit son mari pour qu'il fasse la même chose. Alors la loi a été brisée. La loi doit avoir une pénalité, sinon ce n'est pas une loi. Et la loi était, le jour où vous en mangerez, ce jour, vous mourrez sûrement. Rappelez-vous, le premier trône de jugement était sur la terre, et c'était dans le jardin d'Éden, et le dernier trône de jugement sera sur la terre à la fin des temps, le grand trône blanc. Mais quand Jéhovah descendit, j'imagine qu'il n'y avait même pas une étoile qui brillait. C'était si sombre dans ce petit jardin clair qui était jadis, parce que le péché l'avait englouti, avait enlevé la lumière de parmi eux. C'est ce qui ne va pas avec les églises aujourd'hui. C'est ce qui ne va pas avec le monde aujourd'hui. Le péché a englouti la lumière du Dieu vivant. Pour montrer que Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et qu'il vit pour sauver jusqu'aux extrémités de la terre, pour guérir la personne malade la plus gravement. Oh, comme c'était terrible ce matin-là. La noirceur pendant dans tout le jardin. J'imagine ce brouillard de toile noire. J'imagine chaque feuille. Elle ne bougeait plus jamais. Il n'y avait pas le vent qui circule. C'était la noirceur la plus terrible parce que le péché était entré là-dedans. Alors va Jéhovah, comme dans un grand mont de tonnerre, marchant à travers le jardin, criant, « Adam, où es-tu ? » C'est alors qu'Adam réalisa qu'il était nu, qu'il avait péché devant Dieu, et il se cacha lui-même, il essaya de se faire une religion, mais cela n'a pas marché. Dieu tua des brebis, il en prit les peaux, il montra que quelque chose devait mourir pour couvrir le péché. Se joindre des églises ne couvrira jamais le péché. Aucune confession aux yeux secs ne couvrira jamais le péché. Cela demande la tristesse et une repentance et la grâce de Dieu pour couvrir le péché. Car le sang de Jésus-Christ, celui que Dieu a immolé au calvaire, cela pour couvrir le péché. Et là, dans le jardin, ce matin, quand le péché était si noir, Jéhovah est entré. Et là, se tenait debout son couple condamné. Il n'y aurait plus de race humaine. Il devait mourir. La mort pour la race humaine. Et cela redonnait le monde aux bêtes sauvages. Il n'y aurait pas eu de race humaine. Mais dans cette heure la plus sombre, dans ce temps quand tous les espoirs étaient partis, la grâce se déversa au travers de cela, disant, « Je vous donnerai un sauveur, le Messie. » Oh, c'est un prodige comment Dieu a pu faire cela. La grâce infinie de Dieu dans le jardin d'Éden, qui leur a donné la promesse d'un juste qui viendrait par la femme. La semence de la femme écrasera la tête du serpent, le coupable, et sa tête écrasera son talon pour montrer qu'il y aurait une affliction dans l'Église. Mais il a promis un triomphe. Qu'est-ce qui a promis un sauveur? La grâce. Que pourrait-il montrer pour mériter la grâce? Que pourrait-il montrer pour le faire? L'expression de l'armée, excusez-la, je vais seulement le dire de ma chair ici pour démontrer un point. Passez la piastre. Adam a dit, la femme que tu m'as donnée l'a fait. La femme dit, le serpent m'a séduite. Et un le plaça sur l'autre, il n'y avait pas d'espoir pour eux. Mais Dieu a pourvu pour la grâce. Elle vint perçant à travers cela et il a dit, mais je ferai un chemin de quelque manière, je vous sauverai sans regard. Vous avez mal agi, vous avez transgressé mes lois et mes lois doivent être faites, mais le jugement de mes lois doit être exécuté. Alors il devrait y avoir la mort parce que j'ai dit la mort. Et maintenant, mes amis chrétiens, ces bandits-ci qui ont été faits vont parcourir le monde. Laissez-moi vous demander quelque chose. Vous qui essayez de faire que Dieu soit trois dieux, ou vous qui essayez de faire que lui soit un comme votre doigt, il est un en personne. Ce ne serait pas bien que Dieu fasse mourir un ange. Il ne pourrait pas être la bonne sorte de juge et faire mourir un ange pour être un être humain. Cela ne guérira pas plus, parce que sa grande loi exige la mort, et quelque chose doit mourir, un ange ne peut pas mourir. Non plus pourrait-il dire, Ève, parce que tu as fait qu'Adam ait fait ceci, je te ferai mourir et je laisserai vivre Adam. Parce qu'Adam était aussi participant. Et comme quelqu'un a dit, Pilate, tu justifiais, il lava ses mains. Vous ne pouvez pas laver le sang de Jésus-Christ de vos mains. Vous ne quitterez jamais ce bâtiment ce matin et allez au ciel si vous mourrez dans vos péchés. C'est sur vos mains, alors ce n'est pas bien. Il y avait seulement un chemin juste. Il y avait seulement un chemin qui puisse être la grande voie de Dieu et que ainsi elle puisse être satisfaite. Il devait rencontrer cela lui-même. Il devait le faire. Dieu est esprit et il ne peut mourir. Alors Dieu devait être homme et il mourut dans la chair humaine, dans la forme d'un homme appelé Jésus-Christ. Et cela était le Messie promis qui apportait la grâce. Là où vous voyez que Dieu est Christ, c'est la même personne. Dieu habitant en Christ. Moi et mon Père sommes un. Mon Père habite en moi. Ce n'est pas moi qui dis la parole, mais c'est mon Père qui demeure en moi. Dieu en Christ, certainement. Mais la grâce a été promise dans le jardin d'Éden. Et la grâce vint. Et la grâce pour Adam et Ève. Nulle part où aller. Aucun chemin pour s'en retourner. Et la grâce, par contre, a fait un chemin. Laissez-moi dire ceci, amis pécheurs. Vous êtes peut-être ici ce matin une prostituée. Vous êtes peut-être ici ce matin un coureur de femmes. Vous êtes peut-être ici en tant qu'ivrogne, un joueur ou un meurtrier. Vous êtes peut-être ici comme un mari impur, une femme impure. Vous êtes peut-être le plus vil des pécheurs. Et vous dites, j'ai dépassé ce stade de la rédemption. Non, vous ne l'avez pas fait. Ou alors vous ne seriez pas à l'église ce matin. La grâce fera un chemin pour vous dans cette heure sombre. Si vous voulez simplement l'accepter, Adam devait être consentant pour l'accepter, et vous devez aussi l'être. Acceptez cela. La grâce de Dieu s'est étendue dans le temps de Noé, juste un homme ordinaire, lui et sa famille. Mais pas parce que Noé craignait Dieu, il croyait Dieu. Vous ne pouvez craindre Dieu sans croire. Comment pouvez-vous craindre quelque chose dans quoi vous ne croyez pas? Vous devez craindre Dieu. Salomon a dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Maintenant, seulement de craindre Dieu, alors vous commencez à avoir de la sagesse. Et la crainte de Dieu, Noé craignait le Seigneur, et il croyait dans le Seigneur. Et c'est ce que Dieu honore, c'est votre foi en lui, c'est vrai. Alors, quand la crainte de Dieu vint sur Noé, Dieu l'appela par grâce, et il le sauva, ainsi que sa maison, parce que c'est la grâce qu'il a fait. Pas parce que Noé était un beau grand homme, plus que le reste d'entre eux, pas parce que Noé allait à la meilleure église qu'il y avait dans le pays, pas parce qu'il appartenait à la meilleure organisation, pas parce qu'il pouvait s'habiller mieux, pas parce qu'il avait plus d'argent, pas parce qu'il était une personne spéciale, mais à cause de la grâce de Dieu, Dieu sauva Noé. La grâce sauva Noé, pas ses œuvres, mais sa grâce, et il sauva sa famille aussi. Nous appelons citons un autre caractère où la grâce de Dieu fut étendue. Plusieurs d'entre eux, nous pourrions parler seulement de quelques-uns, mais Abraham. Abraham, pas un homme spécial. Il descendit de la tour de Babel. Peut-être qu'il est sorti d'un groupe d'idolâtres. Son père, il descendit dans la contrée de Shinéar, là-bas, pour demeurer dans la cité de Ur. Et pendant qu'il était là, Dieu lui parla par grâce. Pas parce qu'il était différent, pas parce qu'il était un homme meilleur, mais par grâce, Dieu l'appela. La Bible nous fait savoir cela clairement. Ô Abraham, comment Abraham éprouva la patience de Dieu. Lui disant, Abraham, reste dans ce pays, n'en sors pas, mais aussitôt qu'une famine vint, Abraham s'en alla. Abraham courut, Abraham, cela parlait de nous. Dieu prit Abraham par grâce, et il le sauva. Et c'est de la manière qu'il vous prend, par grâce. Et comment nous éprouvons sa patience. Aujourd'hui nous sommes en haut, demain nous sommes en bas, un jour nous croyons, le jour suivant nous sommes juste comme cela, un peu étonnés. Aujourd'hui nous sommes méthodistes, demain nous sommes baptistes, aujourd'hui nous croyons la guérison divine, et demain le mal de ventre vient, et nous ne savons plus si nous croyons ou pas. Mais par contre, au centre de tout cela, Dieu veut que nous restions stables, mais il nous sauve quand même. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, nous serions tous finis. Certainement, Dieu nous sauve par sa grâce. Abraham devait rester dans ce pays, mais il descendit chez les Chaldéens, les Philistins. Il alla pour séjourner pour sortir de la famine. Et les choses étaient un peu dures là-haut dans son pays. Alors, il descendit là-bas pour séjourner là-bas avec eux. Il fit exactement ce que Dieu lui dit de ne pas faire. Mais par contre, la grâce de Dieu lui apparut. Cela empêcha Pharaon de prendre, ou le roi de prendre sa femme. La grâce de Dieu. Quand Abraham a dit, c'est ma sœur, il a menti à propos de cela. Mais par contre, la grâce de Dieu le tint parce qu'il s'est repenti. Il était consentant pour se repentir. Et n'importe qui est consentant pour se repentir, la grâce de Dieu va encore vers vous. La grâce de Dieu vous cherche. Alors, cela va pour vous, rétrograde ce matin. La grâce de Dieu vous cherche encore. Si vous voulez simplement vous repentir, la grâce de Dieu est suffisante. Comme il prit le bon vieux Abraham, comme il le ramena. Et rappelez-vous, Abraham ne fut pas sauvé par ses œuvres, il fut sauvé par grâce. Abraham fut sauvé par la foi, qui est la grâce. Et Dieu sauva Abraham à cause de sa grâce, pas à cause de son comportement. Il le sauva à cause de sa grâce. Oh, comme cela est bon. Il fut sauvé par grâce. Prenons Israël. J'ai une écriture écrite ici. Et je l'ai écrite et je peux simplement me référer à ça dans ma pensée. Si vous voulez l'inscrire, ceci en sera une bonne pour vous rappeler, si vous voulez, Deutéronome 7:7. Dieu donna sa promesse à Abraham. Il l'a donné à Israël. Et il leur a dit, si vous ne vous associez pas avec l'idolâtrie, si vous ne faites pas ces choses, alors je vous conduirai à une bonne terre. Je prendrai soin de vous. Je vous nourrirai. Je vous conduirai. Je ferai ces choses. Si vous faites tel et tel, si vous m'aimez, si vous gardez mes commandements, mes statuts, mes ordonnances, je ferai toutes ces choses. Si vous faites simplement quelque chose, si vous gardez mes commandements et si vous m'aimez. Tout comme un homme qui prend une femme et qui dit, « Si
si tu es une bonne, une brave femme, si tu prends soin de la maison, si tu es fidèle envers moi, si tu gardes mes vêtements propres, si nous avons des enfants, si tu es une vraie mère pour eux, si tu fais ces choses, je travaillerai jusqu'à ce que mes mains saignent pour te faire vivre, si tu veux le faire. Mais alors, pensez, qu'arrive-t-il si cette femme tourne mal, qu'elle vit d'une manière paresseuse, qu'elle ne travaille pas, qu'elle ne veut rien faire? Alors cela prend la grâce de Dieu, la grâce pour garder cette famille ensemble. Oh Dieu, cela a pris la grâce de Jéhovah pour garder sa famille ensemble. Et c'est de la seule manière que nous sommes la famille de Jéhovah. C'est à cause de la grâce de Dieu. Nous serions tous finis, mais c'est la grâce. Oh, la grâce. Maintenant, mais ils ne l'ont pas gardée. Mais ils ne sont jamais arrivés à la pleine promesse, pas cette génération. Non, cette génération à qui cette promesse fut faite a péri dans le désert, mais Dieu les a nourris, Dieu en a pris soin, Dieu les aima, ils circulaient là autour. Pourquoi? Sa grâce le fit, sa grâce à cause de sa promesse alors, la grâce qui alla avec sa promesse. Mais ils ne sont jamais parvenus à la pleine valeur de la terre promise. Et non plus cette église ne vient pas à sa pleine valeur. La grâce de Dieu nous tient, mais il veut obtenir une église qui lui obéisse, un peuple qui prendra sa parole et dira, c'est la vérité, peu importe votre organisation. Il veut un peuple qui ne dira pas, eh bien, je suis tout aussi bon que tu l'es, je suis presbytérien, je suis méthodiste, je suis catholique, je suis aussi bon que vous. Ce n'est pas la grâce, cela montre que quelque chose va mal. Mais une personne, peu importe, qui lira la parole de Dieu et qui verra que vous devez naître de nouveau, être rempli du Saint-Esprit, ils croiront cela, ils le prendront par la parole, ils prendront la parole exactement ce que cela dit. Comme dans le baptême et les aspersions, le baptême est bien, et il n'y a personne dans la Bible qui fut jamais aspergé, il n'y a rien comme ça dans les Écritures. Il n'y a pas non plus jamais vu quelqu'un qui fut baptisé dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit dans la Bible. Ils furent chacun d'entre eux baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Alors, il n'y a pas un, quand même, un petit bout d'histoire pour, si quelqu'un peut me montrer quelque part, n'importe où dans l'histoire, où une personne a été baptisée dans la Bible, ou 300 ans après la mort du dernier apôtre ou disciple, jusqu'à ce que l'Église catholique, si quelqu'un peut nous montrer quelque part, où quelqu'un a été aspergé ou baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit jusqu'à l'Église catholique, c'est votre devoir en votre âme de me le dire. Cela ne se trouve pas, mais que faisons-nous? Nous avons parcouru les âges de l'Église, nous avons vu où il devait faire cela. Alors vous voyez, Dieu veut quelqu'un qui veut lui obéir. Si ce n'est pas dans l'Écriture, alors ce n'est pas un homme, c'est une doctrine faite par l'homme et non pas une doctrine biblique, voyez-vous? Alors, peu importe ce qu'est l'Église, combien pauvre vous avez été, quelle différence la peut-il faire? C'est comment maintenant bien vous pouvez être actuellement. La grâce de Dieu vous l'a montré. Alors, marchez en cela. La grâce de Dieu. Rappelez-vous Moïse aussi, le grand dirigeant. Dieu aurait dû le tuer quand il alla là-bas pour se glorifier en frappant ce rocher disant, vous voyez ce que je peux faire? En d'autres mots, vous rebelles, devons-nous vous faire sortir de l'eau de ce rocher? Et il le frappa, et les eaux ne sortirent pas. Et il le frappa de nouveau. Qu'a-t-il fait? Il témoigna de la faiblesse de Christ, parce que Christ était ce rocher. C'est la pierre fêtière. Au lieu de le frapper, ou de lui parler, il fut frappé une fois. Rappelez-vous, Dieu a dit à Moïse, là dans l'Exode, va, et je me tiendrai devant toi, sur le rocher, frappe le rocher. Et il frappa le rocher, il fit jaillir des eaux. Et Dieu a dit, la prochaine fois, va, parle à ce rocher, et il fera jaillir son eau. Mais Moïse voulait montrer qu'il avait un peu d'autorité, un peu de puissance. Alors il dit, je vais vous faire sortir de l'eau de ce rocher. Dieu aurait dû le tuer pour cela. Dieu aurait dû le séparer, parce qu'il avait brisé la voix de Dieu juste là, parce qu'il parlait de la faiblesse de Christ. Il devait être frappé une seconde fois. Christ a seulement été frappé une fois. Maintenant nous parlons au rocher et il fait jaillir ses eaux. Mais qu'est-ce que c'était? Regardons le vieil homme. Il a 120 ans. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, il dit, Dieu est un Dieu injuste. Il dit, parce qu'il laissa tomber Moïse, après qu'il ait eu tant de peine avec ses Hébreux pendant 40 ans dans ce désert là-bas, qu'il le laissa tomber et ensuite il ne voulait même pas le laisser entrer dans la terre promise. J'ai dit, non sans, non, il n'a pas laissé tomber Moïse. Il alla à la terre promise, car environ 700 ans plus tard, il fut vu sur le sommet du mont de la Transfiguration, aussi vivant qu'il n'avait jamais été, se tenant là, parlant à Jésus, avant qu'il aille au calvaire, lui et Élie, se tenant ensemble et parlant aussi. Moïse et Élie ont apparu à Jésus, Pierre, Jacques et Jean, sur le mont de la Transfiguration. Il n'était pas mort, il était vivant. Dieu ne l'a pas laissé tomber, il était en Palestine. Maintenant, remarquez, regardez, avant qu'il mourût, il grimpa sur le mont Nebo ce matin, quand il savait qu'il s'en allait. Il dévêtit Aaron, il mit ses vêtements sur un autre, il prit sa propre robe, la plaça sur Josué, il lui commanda de rester avec ses préceptes. Et quand il grimpa au sommet du mont Nebo, il alla au travers de la vallée des plaines. Sachant qu'il allait là-bas pour mourir, il monta sur le mont Nebo et jusqu'à Pisga, et pendant qu'il se tenait là, Dieu a dit, « Regarde dans le pays, je veux que tu le regardes, Moïse. Tu aurais pu aller là-bas, mais tu sais ce que tu as dit là-bas au rocher ce jour-là? Tu t'es glorifié. Je pense que c'est ce qui va être le grand trouble avec beaucoup de nos gens d'aujourd'hui. Va là au rocher et tu t'es glorifié toi-même. » Mais remarquez, quand il se prépara pour mourir, le rocher se tenait là. Il a dû juste passer par-dessus le rocher, là, Pisga, et Dieu l'a enterré. Espace non enregistré sur la bande originale anglaise, mode de l'éditeur. Le mont de la Transfiguration, des centaines d'années plus tard, là-bas en Palestine, voyez, la grâce de Dieu a pourvu pour un rocher. Oh, my. Je pense à Abraham, à toutes ces erreurs qu'il a faites, et Moïse et ses erreurs. Mais quand le commentaire d'Abraham fut écrit, quand le divin commentaire fut écrit, quand Paul a écrit le commentaire d'Abraham, il n'a jamais mentionné une chose à propos de l'incrédulité d'Abraham. Il a dit, Abraham n'a pas chancelé envers la promesse de Dieu par incrédulité, mais étant fort, il a donné la gloire à Dieu. Mon humble prière est, devant la grâce de Dieu qui est ici ce matin, j'espère que le mien soit écrit comme cela, qu'il ne verra pas mes erreurs, que quand mon commentaire sera écrit, quand ils feront mon éloge funèbre, que ce ne soit pas lu que j'ai fait des erreurs et fait du mal, mais qu'il voit seulement les choses que j'ai essayé de faire pour lui, qu'il puisse simplement devenir. Qu'est-ce qui fait cela? Cela prend la grâce de Dieu dans laquelle je crois. Et c'est sur cette grâce que je me confie uniquement. Car sur mes propres mérites, je ne pourrais pas plus y aller qu'aucun du reste. Mais je dépends de la grâce de Dieu. Oui, c'est sur la grâce que je dépends. Il y avait un rocher là quand Moïse se préparait à mourir. Que pourrions-nous dire de David? La grâce de Dieu, ce grand guerrier à qui Dieu lui-même, il a dit, il est un homme d'après mon propre cœur. Ce grand guerrier David, comment pouvait-il faire une telle chose comme il l'a faite, de prendre Uri, son soldat, quand il avait une main pleine de gentils, là comme soldat? Écoutez attentivement cette petite histoire pour un moment. Quand ils avaient leur soldat là-bas et Uri était celui qui se tenait aux côtés de David, Uri était un prosélyte, il était un hittite, un prosélyte de la religion juive. Et ces hommes aimaient tellement David, ils ont vu que l'onction était sur lui, bien qu'il était un fugitif. Il fut rejeté de son propre pays, il devait vivre avec les Philistins, Saül le chassait, mais par contre, ces hommes, ils ont vu l'onction sur lui. Ils savaient qu'il arrivait au pouvoir. Gloire à Dieu! Je suis si heureux d'être un fugitif aujourd'hui, parce que je vois que Christ revient pour être un roi. Vous pouvez élire tous les Kennedy et tous les autres que vous voulez, mais Christ sera roi. L'onction est sur lui, sur son message de sa venue, et il sera roi. Et qu'ont-ils fait? Un jour, ils se tenaient là, assoiffés, pour une gorgée d'eau, de l'autre côté de la barrière, là-haut à Bethléem, là où il avait l'habitude d'aller pour rassembler les brebis. Et vous savez quoi? Deux de ces hommes ont pris une épée, et ils ont coupé à travers 15 000 de chair humaine, pour lui apporter un seau d'eau. Parce que, pourquoi? Son plus petit désir était un commandement pour eux. pensé à cela. Et ils ont coupé à travers tous ces hommes jusqu'au sommet de cette montagne où ils ont dit qu'ils se tenaient. Cela représente environ 15 milles de distance. Ils passèrent à travers tout cela. Chaque homme se levait. Ils faisaient un duel avec lui jusqu'à ce qu'il le tue. Et ils passèrent à travers. Et ils prirent ce seau. Et ils prirent un seau d'eau directement à travers de la ligne de l'ennemi. Deux hommes afin d'obtenir un seau d'eau pour leur roi, pour leur frère. Alors qu'il y avait de l'eau là-bas pour boire. Mais ils voulaient cette eau. Oh Dieu, laisse-moi prendre l'épée de la parole est coupée à travers chaque organisation pour apporter le baptême au nom de Jésus-Christ et la puissance de la résurrection et le Saint-Esprit, que cela revienne à nouveau pour les gens, peu importe, parce qu'il revient en puissance. Il revient en puissance. Il se tiendra seul. Mais cela est coupé à travers chaque organisation, coupé à travers chaque théorie, chaque credo fait par les hommes, jusqu'à ce que vous rameniez au Sauveur une brebis qui s'est fait égarer. Quelqu'un qui ramène les doctrines de la Bible à nouveau. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. La grâce de Dieu. Regardez David. Comment aurait-il pu faire? Un saut dans un fossé, tuer un lion. Comment David pouvait-il prendre la femme d'Uri, la belle Bathsheba, quand il en avait 500 pour lui-même? Mais il la vit prendre un bain. Et voilà la négligence. Maintenant, elle oublia de fermer les stores quand elle a pris son bain. Elle savait que le roi allait faire un petit voyage par là, chaque jour, une petite promenade là en bas, par-dessus ce mur. C'est ce qui ne va pas. Je ne crois pas que les femmes d'aujourd'hui négligent tellement ces choses ainsi. Eh bien, elles sortent simplement toutes nues, c'est tout dans les rues, avec de tout petits vêtements. C'est une disgrâce. Et ensuite, elles se demandent pourquoi les hommes klaxonnent et sifflent. Mais elles font cela afin de les faire siffler et de se comporter ainsi. Elles savent cela. Elles ont assez de sens pour savoir cela. Elles le font simplement parce qu'elles le veulent. C'est dans leur cœur. Vous leur dites qu'elles sont immorales. Elles vont probablement discuter sur cela. Elles ne sont peut-être pas immorales. Elles sont peut-être aussi pures qu'un lys. Quand cela arrive sur le côté sexuel, mais rappelez-vous, il y a un esprit sur elles. Cette onction du diable envoie l'âme d'un homme en enfer. Et rappelez-vous, la Bible dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Et rappelez-vous, sœur, vous répondrez pour avoir commis l'adultère, quoique vous ne l'ayez jamais fait actuellement de toute votre vie. Mais ce pécheur qui vous a regardé de la manière que vous étiez vêtu sera coupable d'adultère. Et vous répondrez au jour du jugement pour avoir commis l'adultère. Quand il doit dire, il dit ici, il a écrit sur ce livre, commettre l'adultère. Avec qui? Madame John Doy. Alors Madame John Doy, qu'en est-il de cela? Je jure que vous connaissez mon rapport. Je n'ai jamais vécu avec aucun autre homme que mon propre mari. Mais tu t'es vêtu toi-même jusqu'à ce que tu causes que cet homme commette l'adultère. Et tu es coupable d'adultère avec lui. C'est alors qu'il l'a fait. Tu es à blâmer. Tu es celle qui s'est présentée. Bathsheba a mal agi comme Ève avait mal agi. Mais Adam était inclus dans cela. Je pense que nous crions toujours à propos des femmes aussi. Et vous, fils de Dieu, hommes, je sais que vous êtes le groupe le plus fort, c'est vrai. Le sexe le plus fort. Vous êtes au-dessus des femmes, c'est vrai. Alors agissez ainsi. Ne les accablez pas. Essayons de prendre une petite fille et de ruiner sa vie. Soyez un fils de Dieu. Dites-lui qu'elle a tort. Tenez-vous comme un fils de Dieu. Elle est votre sœur. Oui, monsieur. Ce que nous essayons de faire, ce que les soi-disant fils de Dieu aujourd'hui appartenant aux églises sortent chaque petite fille qu'ils peuvent, rappelez-vous, parce qu'il y a une femme immorale, peut-être parce qu'un homme marié a ruiné sa vie aussi. Alors, le pot ne peut pas dire à la marmite qu'elle est noire. Alors rappelez-vous simplement, c'est le péché qui fait tout cela. Et nous sommes tous sujets à la mort. Nous devrions mourir pour cela. Et quand David a fait cette chose vile, son propre jugement aurait dû le condamner. Et quand ce prophète vint là-haut, il pensait qu'il était caché, mais quand ce prophète vint là-haut, il se tint devant lui et dit, David, est-ce que tout va bien? Il dit, tout va bien. David, dans ses grandes robes, sa grande couronne, il y avait Joab là-bas, son grand général, tout ce combat qui se passait, Il gardait tous les ennemis hors des limites, toutes ces choses, tout allait bien. Et il eut un bébé avec cette Bathsheba. Et il fit que le pauvre petit Uri sortit là-bas. Il fit en sorte que Joab soit à son côté jusqu'à ce qu'il se retire de lui. Et le garçon mourut quand le soleil descendit avec le couteau de bataille à la main, du sang sur son bouclier, où il s'était tenu pour Israël, bien qu'il n'était qu'un prosélyte de leur religion. Alors quand Joab revint et lui dit cela, que David a fait en sorte que Uri meure, David a pensé, tout est bien maintenant. J'ai sa femme, tout va être correct. J'ai un bébé, mais le bébé tomba malade. Le bébé commença à mourir. Et il fit tout ce qu'il pouvait pour sauver la vie du bébé. Probablement que tous les médecins sont venus. Et ce n'était pas bon. Finalement, le bébé mourut. Ils avaient peur de dire à David que le bébé était mort. Et il mourut. Alors il pensait que tout était caché. Alors il consola Bathsheba. Il l'avait déjà prise pour sa femme, après toutes ses autres femmes. Et ce vieux prophète, ce vieux bonhomme chaud entra, le vieux Nathan, hors du désert. Il s'assit et il dit, « David, comment vont les choses ?» Il dit, « Très bien, très bien, vieux prophète de Dieu, vis à jamais, alléluia !» Oh, il était juste. Il pensait que tout était correct. Il pensait qu'il pouvait le cacher. Mais vous ne pouvez vous cacher de Dieu. Il sait ce que vous pensez maintenant. Il connaît vos pensées, car il est Dieu. Le Saint-Esprit qui est dans ce bâtiment ce matin connaît vos pensées, qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous avez fait, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et Dieu l'a révélé à ce prophète. Il dit, David, il y avait un homme riche qui vivait de ce côté de la rue. Il avait beaucoup de brebis, il était très riche. Oh, il était vraiment riche. Un homme vivait de ce côté du chemin. Il était pauvre. Il avait un agneau. Et il le traitait comme une fille. Il le nourrissait de la même cuillère avec laquelle il mangeait. Il dormait avec l'agneau. Tout était juste. C'était juste comme une petite fille pour lui. Et un jour, un visiteur vint. Alors, au lieu que l'homme riche prenne une de ses propres brebis et fasse un festin pour le visiteur, eh bien, au lieu de cela, il alla et il prit le pauvre agneau de l'homme. Et par la force, il prit l'agneau, le tua et fit un festin. Maintenant, cela était les passions de David. Il avait 500 femmes. Mais quand il vit la femme d'Uri, au lieu de prendre une de ses 500 femmes pour apaiser ou satisfaire ses passions, il alla et il prit la femme de l'autre homme. Et ensuite, il tua Uri quand elle devint une mère. David ne savait pas ce qu'il faisait. Pourquoi? David était prêt à prononcer le jugement. C'est de la façon que nous le sommes. Nous pouvons toujours juger l'autre gaillard. Mais quand cela arrive à nous, oh, c'est différent. Et David dit, l'homme payera de sa vie. Ce vieux prophète, ses yeux se rétrécirent. Il dit, David, sûrement tu ne mourras pas. Surveillez, la grâce allant à l'œuvre rapidement. L'esprit frappa le prophète, sauva la vie de David. La grâce, sûrement tu ne mourras pas, mais l'épée ne quittera pas ta maison jusqu'à ce que cela ait été complètement purgé de ton cœur, car tu es cet homme riche. Oh! C'était alors différent, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a sauvé David? Quand son propre jugement a dit, l'homme mourra, il payera au maximum, il payera ça de sa vie. Le prophète a dit sûrement, la grâce, tu ne mourras pas David, la grâce t'a sauvé. C'était la grâce pour David qui le sauva. Oh, si ce n'était de la grâce, où serions-nous tous? Est-ce vrai? Certainement. La grâce souveraine vient d'un souverain. La grâce souveraine d'un souverain, la souveraineté, qu'est-ce qui peut faire cela? La souveraineté peut faire ce qu'elle veut. Écoutez ceci maintenant. La grâce souveraine peut être donnée seulement par quelqu'un qui est souverain, et Dieu est souverain. Alors il peut donner la grâce souveraine. Alors étant souverain, la grâce n'a pas besoin de demander à personne, elle n'en a pas besoin, elle fait ce qu'elle veut. N'est-ce pas merveilleux? Elle n'a pas besoin de demander, puis-je faire ceci, ou devrais-je faire cela, puis-je, dois-je, ferais-je. Elle ne le fait pas, elle le fait elle-même. La grâce est souveraine. Alors il peut sauver le plus vil, il peut sauver le pire, il peut sauver le plus impur, il peut sauver le plus immoral, il peut sauver le plus malade. Alléluia! Il peut sauver une ruine comme moi, et il l'a fait. Qu'est la grâce? William Branham, le fils d'un ivrogne, ça ne fait pas de différence. La grâce de Dieu m'a sauvé. Moi, je suis la fille d'une femme qui n'était pas bonne. Ça ne fait pas de différence. La grâce de Dieu vous a sauvé. C'est la souveraineté. Elle n'a besoin de demander rien du tout à personne. Amen. Je suis si heureux de cela. Alléluia. Elle peut prendre le plus vil pécheur et le rendre blanc comme la neige. Elle n'a pas besoin de demander à personne à propos de cela. Oh, elle peut le faire, car elle est souveraine. Écoutez rapidement maintenant. Cela fut prouvé à la croix. Quand il y avait le plus vil voleur, il méritait de mourir. Dieu n'était jamais entré dans sa pensée. Il n'avait jamais pensé à rien de cela, mais là, sur la croix, quand au travers de ses lèvres sanglantes, au travers des gémissements, il vint un son. Seigneur, sois miséricordieux envers moi. Et il en vint un autre, au travers du sang, des larmes, de l'agonie. La grâce en empara et dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. La grâce, fit cela. Comment ce voleur pouvait-il céder lui-même? Pas plus qu'Adam ne pouvait céder, pas plus qu'Ève ne pouvait céder elle-même, pas plus que vous ne pouvez vous aider vous-même, pas plus que je ne peux m'aider moi-même, avec pas plus que nous pourrions nous secouer nous-mêmes sur le chemin blanc laiteux, avec nos bottes, nous ne pourrions pas le faire. Mais la grâce de Dieu peut faire quelque chose à propos de cela, et elle le fait. La grâce de Dieu, la souveraineté de la grâce de Dieu, vint à ce voleur repentant, mourant. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Oh, pensez à cela, c'est merveilleux. Pensez à l'amour et à la grâce en tant que sœurs des sœurs jumelles. Vous ne pouvez avoir la grâce sans avoir l'amour. Elles sont sœurs jumelles, exactement vrai. Avant de pouvoir avoir la grâce, vous devez avoir l'amour. Avant que vous ne puissiez actuellement démontrer une faveur à quelqu'un, vous les aimez. Bon ou mauvais, vous devez les aimer. De toute façon, ou vous ne pouvez rien faire. Voyez-vous? Alors l'amour et la grâce, c'est la même chose. Elles sont seulement des sœurs jumelles. C'est tout. L'amour et la grâce. Elles, nous ne pouvons en voir l'une sans l'autre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il déversa sa grâce. Il conduisit cela dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Voyez-vous? Il n'y a absolument rien que vous puissiez faire sans œuvrer l'une avec l'autre. La grâce de Dieu est ce qui nous sauve. Maintenant, nous découvrons que la grâce, là comme ce voleur mourant, pas surprenant que cela ait inspiré les poètes quand ils l'ont vu. Un poète a dit, ce voleur mourant se réjouit de voir cette fontaine en son jour, là puis-je, bien aussi vil que lui, laver tous mes péchés. Depuis que j'ai vu ce ruisseau par la foi, tes blessures sanglantes ont pourvu. L'amour rédempteur a été mon thème et le sera jusqu'à ma mort. Ensuite, dans un chant plus noble, plus doux, je chanterai ta puissance pour me sauver. Quand cette pauvre langue balbutiante, murmurante, silencieusement dans le monde s'éteindra, la grâce, grâce infinie, alléluia. Quelqu'un l'a écrit. Ô amour de Dieu, si riche et pur, combien insondable et fort, cette grâce en durera jamais, c'est le chant des anges et des saints. Et si nous remplissions l'océan d'encre, si nous faisions des parchemins avec les cieux, que chaque fille sur la terre soit une plume d'oise, chaque homme un scribe de métier, pour écrire l'amour de Dieu là-haut, cela viderait l'océan et le mettrait à sec, et les rouleaux, pourrait-il contenir le tout? Bien qu'étiré de ciel en ciel, ça ne le pourrait. C'est ce que c'est. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu qui a fait procéder une onde. Dieu conduit la grâce dans nos vies par son amour pour nous. Voilà autre chose que la grâce ne peut pas faire. La grâce ne peut être achetée. La grâce ne peut être vendue. C'est la grâce. C'est par un souverain. Oui, monsieur. Vous ne pouvez pas marchander pour cela. Vous pouvez dire, « Oh Dieu, je ferai ceci, cela, si tu fais ceci et cela. » Vous ne pouvez faire cela. Dieu ne fera pas cela. Vous ne pouvez rien sortir hors de Dieu. Dieu vous le donne par sa grâce. Oh, 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 par celui qui veut ou celui qui court, mais Dieu qui montre sa miséricorde. C'est vrai. Les gens s'étendent sur leur visage. Un homme vint à moi. Je crois que j'ai vu un de ces gars là en arrière dans le bâtiment aujourd'hui. un brave garçon méthodiste qui vient d'entrer et a reçu le Saint-Esprit d'en haut. Et ces gars vinrent à moi disant, maintenant, frère Branham, maintenant que nous avons été sauvés, que nous avons reçu le Saint-Esprit, devrions-nous rechercher pour les dons? J'ai dit, ne le faites pas, ne le faites pas. Car Dieu donne ses dons souverainement. Les dons et les appels sont sans repentance. La première chose que vous savez, vous commencez à rechercher quelque chose. Oh Dieu, fais de moi un prédicateur. Fais simplement ceci pour moi. Et qu'allez-vous être? Une grosse chemise enflée. Et c'est tout. Vous irez à la théologie d'un homme, d'une certaine organisation, et là, vous vous engloutirez, vous pourrirez. Laissez Dieu faire l'appel. Dieu vous appellera. Dieu vous sanctifiera. Dieu vous donnera ce qu'il doit vous donner. Oui, monsieur, vous ne pouvez marchander pour la grâce. Non, monsieur, elle ne peut être vendue, elle ne peut être marchandée, pas plus qu'elle ne peut être achetée, elle ne peut être échangée. Vous ne pouvez pas dire, eh bien, Seigneur, j'irai me joindre à cette grande église baptiste, ou cette grosse église méthodiste, ou cette grande église pentecôtiste, ou cette grande église nazaréenne. Je ferai ceci si tu veux simplement faire ça pour moi. Cela ne peut être marchandé. Non, monsieur. Tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Aucun homme ne peut venir avant que mon Père ne l'appelle premièrement. Vous devenez simplement un membre d'église, de cette grande église, c'est tout. Vous ne serez pas sauvé. La grâce doit vous sauver. Nos talents ne peuvent pas se reposer. Nos talents ne peuvent être nos talents que nous avons. Nous ne pouvons mériter la grâce par les talents. Si Dieu m'a fait en tant que prédicateur, cela ne montre pas que sa grâce a été avec moi. Non, non. C'est sa grâce seule qui me sauve. Pas parce que je prêche l'évangile. Je ne suis pas sauvé à cause de cela. Pas parce que vous parlez en langue. Mais vous êtes sauvé. Oh non. Pas parce que vous prêchez, vous n'êtes pas sauvé parce que vous parlez en langue, vous n'êtes pas sauvé parce que vous faites aucune de ces choses. 1 Corinthiens 13 prouve ceci. Bien que je parle les langues des hommes et des anges, bien que je comprenne tous les mystères de Dieu, un prédicateur, bien que je fasse tout ceci et que j'ai la foi pour déplacer les montagnes, je ne suis rien jusqu'à ce que la charité entre, ce qui est l'amour. Et l'amour est la grâce. La grâce de Dieu qui fait tout. Certaines personnes, vous avez des talents, comme certains de ces rois du rock'n'roll. Cela me rend simplement malade. Oh, je ne sais pas, mais en ce qui concerne ma gastronomie spirituelle, je vous le dis, quand j'entends ce rock'n'roll, ils se tiennent debout le samedi soir, chanter le rock'n'roll, danser toute la nuit, et ensuite le matin suivant, venir faire face à l'auditoire, et des choses comme cela, et avec des essais de se faire un long visage, avec une apparence sainte, se tenir là, devant les gens, chanter un cantique, et ils pensent qu'ils vont aller au ciel. Je pourrais citer bien des noms, mais je ne suis pas obligé. Cette bande va partout. Mais vous savez tous, un garçon ici, il n'y a pas longtemps, à Hollywood, il ne voulait pas même embrasser une fille, parce que c'était contre sa religion. Contre sa religion. Et faire des portraits de rock'n'roll, des choses qui sont disgracieuses, et des choses comme cela. Pensez-vous que vous pourriez prendre vos 30 pièces d'argent et mériter quelque chose dans la grâce de Dieu, Judas? Cela n'achètera rien d'autre qu'une place en enfer pour vous. La grâce de Dieu ne peut pas être marchandée. Elle ne peut pas être, ça ne peut pas être avec les talents. C'est la grâce souveraine. Bien, rien que j'apporte dans mes bras. Simplement, je m'accroche à ta croix. Nu, blessé, je viens simplement comme je suis, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. C'est tout, c'est la grâce qui m'y a conduit, la grâce l'a fait. La grâce est comme une autre chose que j'aimerais vous dire. Quelquefois la grâce est, ces grandes églises, elles pensent que vous pouvez descendre là, elles pensent, eh bien, nous avons bâti la plus grande église de la ville. Nous avons une aide de la Société des femmes ici qui fait des dons pour les pauvres, des vêtements pour les pauvres, qui les envoie outre-mer. Nous nourrissons les pauvres, nous faisons tout cela. Voilà dit, je peux faire la même chose et n'être rien. Ils disent, eh bien, nous sommes une vieille organisation. Nous avons été ici depuis 2000 ans. Nous avons 500 ans, John Wesley, Alexander Campbell et ses grands fondateurs là-bas. Ils ont fondé notre église. Alléluia! Eh bien, Jésus-Christ a fondé cette église, le baptême du Saint-Esprit, Et il leur a dit d'aller là-haut à la Pentecôte et d'attendre jusqu'à ce qu'ils reçoivent la puissance du Très-Haut. Et quand bien même vous pouvez appartenir à l'église pentecôtiste et être perdu, l'église pentecôtiste n'est pas plus qu'aucune autre église, c'est vrai. La chose est celle-ci. Il y a seulement une église. C'est l'église dans laquelle vous êtes né par le baptême du Saint-Esprit. Car par un esprit, nous sommes tous baptisés dans un même corps. 1 Corinthiens 12:13, c'est vrai, première épître aux Corinthiens, chapitre 12. Maintenant, nous sommes baptisés dans cette église. Mais les gens pensent qu'ils peuvent le mériter. Eh bien, je suis allé à l'école, et j'ai appris à faire ceci, et je suis allé au séminaire, et j'ai fait cela. Cela ne veut rien dire. Vous ne pouvez pas acheter la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est comme ceci. Laissez-moi vous raconter une histoire pour terminer. La grâce de Dieu est comme ceci. Une fois, il y avait un roi puissant. Et ce roi puissant avait un fils. Et c'était son seul fils. Et un jour, un meurtrier tua ce garçon. Et à travers tout ce royaume, les délégués sont allés pour chasser et pour trouver ce meurtrier. Ils ont finalement trouvé ce meurtrier. Et quand ils l'ont trouvé, ils l'ont ramené et ils l'ont emprisonné. Et après qu'il l'ait fait, un procès fut ordonné et une sentence fut donnée. Oh, c'était une chose terrible. Il avait tué le fils du roi et il savait ce qu'il attendait. Alors ils l'ont placé dans les cellules intérieures, ils ont vraiment fermé les portes, ils ont placé des coussins sur cela afin que personne, les gardiens alentours, parce que nous savons quelle sorte de punition horrible allait recevoir ce garçon parce qu'il avait tué le fils du roi, le fils royal du roi. Et les gardiens furent placés tout autour des portes. Il fut placé dans les cellules intérieures, déshabillé, avec rien d'autre qu'un juste un espèce de pagne sur lui. Et il était là, assis là dans cette condition, affamé, ne voulant rien lui donner à manger, et il était assis là dans cette condition. Ensuite, ils l'ont amené à un procès. Et il fut trouvé coupable. Est prouvé coupable. Et la sentence fut dite qu'il devait être exécuté sous l'horrible punition de la peine capitale. Il devait être tué par pouce jusqu'à ce que sa vie mortelle s'en aille. Jugé par le juge, il devait mourir. Et il supplia, et il cria, et il dit, bien que je sois coupable, bien que je sois coupable, je regrette d'avoir fait cela. J'aimerais ne l'avoir jamais fait. Je regrette de l'avoir fait. En un moment, dans un temps où j'étais en colère, je l'ai fait. Je n'avais pas l'intention de faire ça de cette manière. Et un jour, le roi descendit à cet endroit pour visiter le garçon, pour lui parler, au sujet d'avoir tué son propre fils, le seul fils qu'il avait. Il avait tué ce garçon. Il dit, je descends pour lui parler. Et quand il descendit là-bas, il regarda derrière, dans cette cage, comme un animal en cage. Il vit ce petit corps mince couché là dans un coin, pleurant, son visage tout renfrogné, ses mâchoires toutes renfoncées, ses yeux creusés, la matière était toute dans ses yeux, sa bouche était toute blanche, pas d'eau, assoiffée, couché là sur sa face, pleurant. Le roi dit, lève-toi. Il vint vers lui et le regarda et dit, pourquoi as-tu tué mon fils? Qu'est-ce que mon fils t'a fait? Qu'a-t-il fait pour mériter une telle mort? Que tu l'aies tué le poignardant à mort avec une lance. Il dit, rien, mon Seigneur, pas une chose. C'est seulement ma propre impudence, seulement mes propres manières, mon caractère. Je l'ai tué parce que j'étais jaloux de lui. Je suis tombé dans une crise de colère et je l'ai tué. Il dit, maintenant je dois mourir sous ta justice, monsieur. Je réalise cela, je mérite cela. Une chose pour laquelle je pleure, je regrette simplement d'avoir tué cet homme royal comme cela sans cause. Le roi se tourna sur ses talons, sortit, alla au pupitre et dit, détruisez tous les rapports, vous savez, mettez-les dans la mer de l'oubli, détruisez tous les rapports, lavez-le et amenez-le, je vais lui envoyer une robe. Et au bout d'un petit moment, une grande limousine arriva à la porte et quand elle arriva, un tapis fut déroulé jusqu'à la cellule de la prison. Le roi se tenait là au bout de la limousine et il dit, viens mon fils. Et monte avec moi à la maison, au palais. Il mit la robe du roi autour de lui. Il dit, à partir de ce moment, tu es mon fils. Parce qu'il avait pitié, c'est la grâce. C'était moi, c'était vous. Nous avons tué le fils de Dieu avec nos péchés. Nous étions errants, malpropres, souillés. Nous avons dormi dans les selles du monde, mais Dieu nous a lavés par le sang de son propre Fils. Il nous a lavés, il a mis la robe du Saint-Esprit sur nous. Et maintenant, le grand chariot de Dieu va reculer jusqu'à la porte un jour et nous irons à la maison pour vivre avec lui. Tous les rapports seront détruits. Nous ne pouvons plus être jugés. Il les a brûlés. Il les jeta dans la mer du pardon et il ne s'en rappelle plus. Pas surprenant que nous puissions chanter « Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, maintenant je suis retrouvé. J'étais aveugle et maintenant je vois. C'était la grâce qui enseigna la crainte à mon cœur, la grâce qui soulagea mes craintes. Combien précieuse fut cette grâce à l'heure où j'ai cru. Laissez donc ceci à votre heure maintenant, amis pécheurs, pendant que nous inclinons nos têtes pour un moment, pour un mot de prière. Que ceci soit l'heure où vous croyez premièrement maintenant. Faites-vous une idée et dites, Seigneur Dieu, je suis coupable. Je réalise que cela demande la grâce pour me sauver. Je ne peux pas me sauver moi-même. Je suis perdu, je suis fini, je ne peux rien faire. Je suis totalement sans recours, sans espoir, sans Dieu, sans miséricorde, sans Christ, dans le monde aliéné. Ne veux-tu pas avoir miséricorde et me sortir de cette cellule du péché dans laquelle je suis aujourd'hui, ô Seigneur? Et sois miséricordieux envers moi, un pécheur. Voulez-vous lever vos mains et dire, Seigneur Dieu, je suis cette personne qui a besoin de ta grâce? Voulez-vous lever votre main et dire, priez pour moi, frère Branham, je vais maintenant croire? Que Dieu vous bénisse là-bas, mon frère. Quelqu'un d'autre qui veut dire, frère Branham, rappelez-vous de moi maintenant? Ô frère, faites-le s'il vous plaît en prière. Que Dieu vous bénisse, madame. Priez que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse, sœur. Que Dieu vous bénisse, frère, là-bas à la fenêtre. Que Dieu vous bénisse, frère, là-bas en arrière. Que Dieu vous bénisse, frère, ici. Et vous, là, l'autre. Rappelez-vous de moi, frère Branham. Que Dieu bénisse mon frère là-bas. Oui, l'autre aussi. Il vous voit maintenant. Pensez-y vraiment. Que Dieu vous bénisse, jeune homme. Il voit, il sait que Dieu vous bénisse là en bas ici, frère. Que Dieu vous bénisse, mon frère qui est contre le mur. Tel que je suis. Y en a-t-il un autre? Que Dieu vous bénisse. Je vois votre main là-bas. Sinon ton sang versé pour moi. Oui, Seigneur, que Dieu vous bénisse, sœur, et que Dieu vous bénisse, sœur, ta voix qui m'appelle à toi. Que Dieu vous bénisse là-bas. Oui, à toi. Grâce, grâce, que Dieu vous bénisse, jeune dame, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait. Agneau de, ô grâce, grâce, je viens, je viens. Maintenant, il y a eu environ 15 ou 20 mains levées. Maintenant, avec nos têtes inclinées, je vous demandais que vous leviez vos mains silencieusement maintenant. Levez-vous simplement sur vos pieds pendant que j'offre un mot de prière pour vous. Nous n'avons pas de place ici à l'autel, c'est juste. Je ne peux pas, mais tenez-vous simplement sur vos pieds. Chacun de vous qui a levé sa main, qui désire une prière maintenant, levez-vous sur vos pieds partout. Versez pour toi et que c'est bien que Dieu vous bénisse, qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Rappelez-vous, il peut venir un jour où la grâce ne sera plus, n'abondera plus pour vous. Ce sera trop tard. Maintenant, ce n'est pas trop tard. Ô Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ramena notre Sauveur de la mort, qui vit maintenant, lui qui est dans la gloire suprême, qui a envoyé le Saint-Esprit de Christ sur nous pour apporter une conviction aux pécheurs. Ô Dieu, je prie pour ces gens qui sont debout sur leurs pieds. C'est la vérité, Seigneur. Tu as dit, celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père et devant les saints anges. Nous savons, quand nous tiendrons debout en ce grand matin du jugement, quel temps ce sera. Ils se tiennent debout maintenant, Seigneur, afin que leurs péchés aillent, s'en aillent devant eux. Les péchés d'un homme le suivent. Mais ces gens se tiennent ici ce matin parce qu'ils ont confessé leurs péchés, sachant qu'ils ont fait le mal et ils te veulent pour leur sauveur. restreins les reins du cœur, tu sais tout à propos d'eux, Seigneur. Je prie, Père, que tu exauces leurs requêtes. Sauve-les. Ils sont les trophées de ce petit message ce matin, de la grâce de Dieu. Peu importe ce que nous avons fait, il s'abaisse quand même et il nous prend. Accorde-le, Seigneur. Accorde la grâce à ces cœurs, qu'ils voient toujours Jésus comme leur sauveur. Ils ont fait un acte. Le Saint-Esprit leur a dit de se lever et de se tenir debout. Et ils l'ont fait. Le Saint-Esprit leur disant de se lever. Et ils se sont levés en obéissant à l'Esprit. Maintenant, Seigneur, tu gardes ta parole. Tu as dit aucun homme ne peut venir à moins que mon Père ne l'attire premièrement. Et tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. Celui qui viendra à moi, je ne le rejetterai point. Celui qui entend mes paroles et croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne viendra jamais en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors, Seigneur, sur la base de ces Écritures, ce sont tes propres paroles, Seigneur, que nous lisons dans 5 Jean 5, 24. Celui qui entendra mes paroles et croira en celui qui m'a envoyé. Ah ! Pourquoi ? Parce qu'il a cru. La grâce est ce qui est fait pour eux. A est venu à la vie éternelle et ne viendra point en jugement. Il partira avant le jugement et ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ô Dieu, comme nous te remercions pour ceci, nous prions maintenant que tu les gardes à travers la vie, que chacun d'eux soit baptisé invoquant le nom du Seigneur et que leurs péchés soient lavés. Accorde-le, Seigneur. Maintenant, je les présente à toi en tant que ton serviteur, croyant que le grand ange de Dieu qui a apparu là-bas est Père. Tu connais toute cette histoire et ce grand ange qui a apparu là vendredi matin, juste comme l'aurore grise, et il a dit ses paroles dans la forme de 3 arcs-en-ciel venant du haut de la montagne. Seigneur Dieu, que ce Dieu qui m'est apparu là, dans les 3 arcs-en-ciel, qu'il sauve ce peuple par sa grâce maintenant. Je te les donne dans l'attente que tu gardes ta parole et tu le feras. Et je les rencontrerai en ce grand jour sans tache ni ride dans leur âme. Accorde-le dans le nom de Jésus. Je te les donne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, comme vous vous asseyez, quiconque se tient près de ces gens, vous qui êtes chrétiens, donnez-leur la main, dites-leur, invitez-les à l'église, dites-leur quelque chose afin qu'ils soient. Oh, n'est-il pas merveilleux? Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée au moment où j'ai cru. Depuis ce jour, de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Avez-vous cru? Si vous avez cru, levez votre main. Oh, combien j'aime Jésus! Oh, combien j'aime Jésus! Oh, combien j'aime Jésus parce qu'il m'a aimé le premier! Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrions, comme au commencement, merci au Dieu, lui offrir nos hommages. L'aimez-vous? Maintenant n'est-il pas merveilleux? Maintenant, lorsque nous chanterons cela à nouveau, je veux que vous donniez la main, vous donniez la main à quelqu'un près de vous, très silencieusement en disant que Dieu vous bénisse, pèlerin, très doucement et saintement, maintenant, quand nous, et Frère Branham et la congrégation se serrent la main de l'éditeur, et louange de Dieu au moment où j'ai cru. À la croix où j'ai d'abord vu la lumière et le fardeau de mon cœur s'est éloigné, c'était là par la foi que j'ai reçu ma vue et maintenant je suis heureux tous les jours. Oh, à la croix, où j'ai d'abord vu la lumière, et le fardeau de mon cœur s'est éloigné, c'était là par la foi que j'ai reçu ma vue, et maintenant je suis heureux tous les jours. N'êtes-vous pas heureux? Quel bonheur! Jésus m'a sauvé! Quel bonheur! Jésus m'a sauvé! Quel bonheur! Jésus m'a sauvé! Chante en gloire! Alléluia! Jésus m'a sauvé! Oh, quel bonheur! Jésus m'a sauvé! Quel bonheur! Jésus m'a sauvé. Quel bonheur. Jésus m'a sauvé. Chante en gloire. Alléluia. Jésus m'a sauvé. Ne l'aimez-vous pas? N'est-il pas merveilleux? Oh, je pense qu'il est simplement merveilleux. Maintenant, pensez seulement que cette Bible est la vérité, cette Bible enseigne qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je vais vous demander quelque chose. S'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, oh Dieu, pardonne-moi pour avoir dit une parole sacrilège. Si, mais il est le même. Mais s'il est le même, je vais dire cela de cette façon, alors quelle sorte de personne serait-il? Il serait le même qu'il était. Maintenant, il y a seulement une chose différente en lui, étant ici ce matin, que lorsqu'il était parmi les gens en Galilée, ce serait son propre corps de chair, son corps corporel, parce que cela a pu élever, croyez-vous cela, est assis à la droite de sa majesté en haut, vivant à jamais pour intercéder en notre faveur. Rappelez-vous, il ne peut pas faire une chose pour nous avant que, premièrement, nous l'acceptions et croyons qu'il était, disons qu'il était, car il est le grand prêtre qui peut, il est le grand prêtre qui accomplit l'intercession pour notre confession. Maintenant, beaucoup de lecteurs de la Bible disent qu'il est dit professé. Et professer et confesser est le même mot, voyez-vous. Et il a été fait grand prêtre dans le livre des Hébreux, 3e chapitre, faisant maintenant l'intercession étant le grand prêtre de notre confession. Alors il ne peut rien faire jusqu'à ce que premièrement nous confessions qu'il l'a fait. Voyez, vous venez ici à l'autel et priez toute la nuit, ça ne fera aucun bien jusqu'à ce que vous croyez qu'il vous a pardonné. Ensuite, vous vous tenez debout et ensuite, autant de foi que vous avez, c'est là où vous viviez jadis, loin ici, bas, dans la boue du péché, maintenant, vous, jeune converti, maintenant vous croyez que vous êtes sauvé, n'est-ce pas? Alors vous vous êtes élevé jusqu'ici, vous vous êtes élevé un peu plus haut. Et qu'est-ce qui a fait cela? Votre foi, parce que vous croyez que vous êtes chrétien maintenant, vous vivrez au-delà de cette chose maintenant, voyez-vous? Maintenant, si vous voulez vous élever un peu plus haut, ayez simplement plus de foi, car c'est illimité. Continuez simplement. Eh bien, oh, un impossible peut être rendu réel. Toutes choses sont possibles à ceux qui croient, c'est vrai. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous ne doutiez pas dans votre cœur, mais que vous croyez que ce que vous dites s'accomplira, vous pouvez avoir ce que vous dites. Maintenant, Jésus-Christ demeure dans le peuple. Un jour, Christ était dans la colonne de feu, celle que vous voyez qui a été prise. Vous croyez que c'est Jéhovah Dieu. C'est ce que l'ange essaie de nous faire savoir. Maintenant, il était dans la paternité alors. Il était le père d'Israël, une nation. Alors il est venu et habita parmi son peuple comme Christ le Fils. Est-ce vrai? Christ est le Fils de Dieu. Maintenant, il est Christ, le Saint-Esprit, ce qui est l'onction. Christ veut dire celui qui est oint. Et il vint sur le peuple. Christ avec nous, le Saint-Esprit. C'est Christ avec nous, en nous. Croyez-vous cela? Soyez très respectueux pour juste un moment, silencieusement. Maintenant, est-il le même? Je crois, il y a quelques instants, j'ai eu un appel, disant que les gens rampant par-dessus les sièges et ces choses ici-bas, nous parlerons de cela plus tard dans un service de l'Église. J'ai dit à Billy, alors, s'il devait prier pour les malades, s'il y en avait tant que ça là-bas pour leur donner des cartes de prière, il a dit qu'il le ferait. Je suppose qu'il l'a fait. Dans les derniers 2 ou 3 mois, depuis qu'une certaine occasion de quelque chose arriva, le ministère arriva à un tel endroit que je suis devenu un peu hors de ma main. Il voyait ce discernement et ainsi de suite, comment ça parlait et disait aux gens exactement comme notre Seigneur l'a fait quand il était ici sur la terre. Vous l'avez tous vu, je suppose. Combien ne l'ont jamais vu? Vous ne l'ont jamais vu à l'œuvre. Voyons vos mains. Qui ne l'a jamais vu? Oh, ils ne l'ont jamais vu à l'œuvre. Eh bien, il y a un groupe ici qui ne l'a jamais vu, des étrangers, je suppose. Nous ne savons pas d'où viennent les gens. Ceci est un tabernacle interdénominationnel. Nous ne sommes pas contre les dénominations, mais nous ne sommes pas pour elles non plus. Nous les laissons simplement aller de leur manière. Nous croyons de prendre les gens, s'ils veulent retourner à leur dénomination, très bien, pour autant qu'ils vivent une vie chrétienne. Nous sommes seulement une station pour sauver les âmes ici. C'est ce qu'est mon ministère pour eux. Maintenant, je crois que la Bible enseigne dans Hébreux 13:8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Croyez-vous cela? L'Assemblée dit Amen, nom de l'éditeur. Eh bien, s'il est le même, maintenant, pendant que vous vous asseyez tous très silencieusement pour une minute, je vais vous parler directement de mon cœur et ensuite nous aurons le service de guérison. Je vais vous demander quelque chose. S'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, Alors comment a-t-il, la seule chose que nous pourrions le dire alors, s'il est un esprit, il agirait de la même manière qu'il l'a fait hier. Est-ce vrai? Il agirait de la même manière qu'il l'a fait hier. Et comment agissait-il hier? Était-il différent de notre homme? Il était simplement un homme, ressemblant à un homme. Il était un homme. Il est né, il était un homme, il avait de la chair et du sang, il a souffert, il a gémi, il est passé par les tentations, il était un homme. C'est vrai, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il a fait Dieu? C'est parce que l'Esprit de Dieu était sur Dieu. Il était le Messie oint. Comment savait-il qu'il était? Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi. Et cela s'accomplira que quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché de parmi le peuple. Maintenant, il était un prophète. Alors Israël cherchait-il un prophète? Il le devait, s'il cherchait pour un Messie. Et le Messie devait être un prophète. Maintenant, juste parcourons cela une seconde, pour quelques secondes. Écoutez attentivement. Maintenant, gardez votre pensée sur Dieu, car nous ne savons pas ce que Dieu peut faire. Nous ne savons pas ce qu'il me dira de faire. Je sais que nous avons un don de prophétie dans l'Église. Notre frère Neville, il prophétise sur le peuple, ce qui est magnifique. Nous apprécions cela. Nous nous sommes référés à cela tout le long. Nous en avons quelques-uns ici qui parlent en langue. Nous ne croyons pas que les gens doivent parler en langue pour avoir le Saint-Esprit. Il n'y a pas de telle écriture pour une chose comme cela. Mais nous croyons qu'il y a un don à l'Église, c'est de parler en langue, comme nous l'avons dans notre Église. Mais nous les faisons, n'allons pas à nous emporter. Nous croyons que c'est la voix de Dieu. Nous parlons quand le Saint-Esprit parle. Et nous laissons cela arriver seulement trois fois. Et cela doit, ça ne peut pas être pendant que je prêche ou en or, car l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, voyez-vous? Cela doit être dirigé bien d'après la Bible. Personne ne peut dire qu'il n'y a pas de telle chose que les dons du Saint-Esprit et le parler en langue. Nous savons cela. La Bible enseigne cela. Et nous croyons en cela. Et nous remercions Dieu que nous l'avons dans notre Église ici. Nous avons des dons de prophétie. Mais ils doivent premièrement être éprouvés et voir s'ils sont bons ou non, et ensuite le don de prophétie. Ensuite, il y a un prophète. Maintenant vous arrivez à un office. Ce sont des dons, ceux-là le sont, le parler en langue, et l'interprétation des langues, et la connaissance, et la sagesse, et les discernements, ainsi de suite. Ce sont tous des dons. Mais ensuite, il y a cinq offices. Premièrement, il y a des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs. Ce sont des offices ordonnés de Dieu. Des hommes les tiennent, voyez-vous? Vous ne pouvez pas désirer cela. Vous ne pouvez pas prier en demandant des choses comme cela. Ils sont donnés souverainement. Vous êtes nés en tant que tel. Un prophète n'est pas un prophète si quelqu'un impose les mains sur lui et cela fait de lui un prophète. Un prophète est né du sein de sa mère. C'est comme ça qu'il est un prophète, voyez? Alors il sera toujours un prophète, voyez? Dieu a dit à Jérémie, il dit, « Avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, dit-il, je t'ai connu et je t'ai sanctifié et je t'ai ordonné en tant que prophète pour les nations. » C'est vrai, voyez-vous? Moïse, avant qu'il ne naisse, il était un enfant particulier. Il était le prophète du Seigneur. Tout le reste d'entre eux allait arriver. Christ était le Fils de Dieu dès le jardin d'Éden. C'est vrai, voyez-vous? Les dons et les appels sont sans repentance. Mais les dons sont donnés au corps. Maintenant, nous reconnaissons cela. Nous reconnaissons tous ces dons. Maintenant, voyons ce que Jésus était parmi nous. Voyons ce qu'il était là-bas. Nous découvrons quand il a premièrement commencé son ministère. Maintenant, écoutez attentivement, vous les étrangers. Quand il a commencé son ministère au début, dans Saint Jean, le premier chapitre, nous découvrons qu'après qu'il ait été baptisé, après qu'il soit venu, il est né et il arriva à l'âge de 30 ans. Il fut baptisé par Jean. Le Saint-Esprit descendit comme une colombe, descendit sur lui, et une voix vint et dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui ?» Le vrai grec original dit, « En qui je me plais de demeurer ?» Cela dit, « En qui je me plais ?» En qui ? En qui je me plais de demeurer ? Mais voyez-vous, cela sonne un peu à reculons pour nous, et le verbe avant l'adverbe, mais actuellement c'est « En qui je me plais de demeurer ?» Car Christ, Dieu, était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Nous savons cela. Maintenant, immédiatement, il alla 40 jours dans le désert pour être tenté par le diable. Ensuite, il vint avec son ministère. Il commença à prier pour les malades. Et après un peu de temps, Un homme du nom de Simon Pierre vint, Dieu pécheur, sans éducation, il ne pouvait même pas écrire son propre nom, et André lui a parlé de cet homme qu'il croyait être le Messie. Et il dit, non sans, il vint à lui, et aussitôt qu'il marcha dans la présence de Jésus, Jésus a dit, ton nom est Simon, et tu es le fils de Jonas. Il savait que quelque chose était arrivé. Il savait que c'était le fils de Dieu, et cela lui plut de lui donner les clés du royaume. Il fit de lui la tête de l'église. Il y avait un garçon, là debout, du nom de Philippe. Philippe a vu cela, et il pensa, merveilleux, je connais un homme qui est un érudit de la Bible, et il vit environ à 15 000 là, après la montagne. Je vais courir alentour, et je vais lui dire, son nom est Nathanaël. Il courut autour de là très rapidement ce jour-là. Le jour suivant, peut-être qu'il arriva là-bas, peut-être au lever du jour. Il a couru, il frappa sur la porte, et Madame Nathanaël a dit, il est sorti là-bas dans le verger, Philippe, son bon ami. Il alla là-bas, et il était sur ses genoux priant. Et aussitôt qu'il se leva de ses genoux, Philippe lui a dit, viens voir qui j'ai trouvé, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Maintenant, ce religieux, ce grand dignitaire a dit, peut-il y avoir quelque chose de bon qui sort de Nazareth? Il lui donna une bonne citation, une bonne chose, il dit. Ne reste pas à la maison pour critiquer cela. Ne va pas parler de cela. Viens seulement et vois pour toi-même. Viens et vois. Viens simplement. Découvre si quelque chose de bon peut sortir de Nazareth. Tu veux dire le Messie? Eh bien, le Messie viendra, il descendra, il sortira hors de... Les corridors des cieux seront abaissés. Il viendra directement au palais. Il viendra à notre grande organisation. Ils pensent encore cela, vous voyez. Ça doit venir à leur organisation. Il descendra sur les canapés du palais là-bas. Il ira dans les cours extérieures. Il ira directement sur le trône. Et là-haut, dans le Saint des Saints, il dira, je suis le Messie. Mais le Messie ne vient jamais comme cela. Le Messie vient où il veut. Il est souverain. Il fait comme cela lui plaît. Il dit, eh bien, dit-il, viens et vois. Viens voir pour toi-même. Ne reste pas là en disant, je ne crois pas dans ces choses, saint comédien. Viens simplement, découvre s'il y a quelque chose à propos de cela. Alors, sur le chemin faisant, je peux les entendre parler. Aimeriez-vous entendre de quoi ils parlaient? Écoutons et voyons ce qu'ils se sont dit. Je crois, alors du côté de la route, vous savez, Philippe a dit, tu sais Nathanaël, je sais que tu es un étudiant de la Bible, alors je veux te demander quelque chose. Nous recherchons pour un Messie, n'est-ce pas? Oh oui, nous arrivons au dernier jour pour cette génération. Et ceci, je crois que cette génération verra le Messie. Maintenant, écoutez. Oh, mais nous voici, nous ne sommes même pas une nation. Nous sommes tous éparpillés parmi le peuple. Comment pouvons-nous tout ceci? Dieu vient dans l'heure où on ne le pense pas. C'est alors qu'il est là. Il dit, mais attends une minute, quelle sorte de personne sera ce Messie? Oh, Moïse, notre enseignant, nous a dit qu'il serait un prophète. Eh bien, je vais te parler de ce Jésus de Nazareth. Tu te rappelles de ce vieux pêcheur ignorant, duquel tu as acheté du poisson en ce temps-là, tu as acheté de lui, il ne pouvait même pas signer un reçu, il n'avait même pas suffisamment d'instruction. Oui, oui, Jonas, le fils de Jonas. Oui, j'ai aussi acheté du père Jonas. Eh bien, sais-tu quoi? Pierre est venu là, ou Simon plutôt, son nom était Simon en ce temps-là. Il dit, Simon est venu à la réunion. Et il n'a pas si tôt marché là-haut que... Et tu te rappelles comment Simon avait l'habitude de nous dire que son père lui a dit de ne pas être séduit parce qu'il y aurait beaucoup de faux prophètes avant le réel Messie. Et c'est vrai, plusieurs faux messages iront de l'avant. Mais dit-il, tu sauras quand le vrai message arrivera. Parce que rappelle-toi, nous les Juifs, nous croyons que ce Messie sera un prophète. Nous croyons nos prophètes. Demandez à un Juif maintenant, Israël, quand ils prennent cette Bible juste là maintenant... Venant de l'Iran et ces choses, ils la lisent, ils disent, si ce Jésus était le Messie, voyons-le faire le signe du prophète, alors nous le croirons. Oui, monsieur, nous savons que ces prophètes sont véritables. Alors Nathanaël a dû dire, oh, je crois que le Messie sera un prophète, car Moïse a dit, le Seigneur notre Dieu nous suscitera un prophète. Eh bien, quand nous verrons cela, ce Simon dont tu parles, il a dit, ton nom est Simon, et tu es le fils de Jonas. Non seulement il le connaissait, mais il connaissait son bon vieux père parisien. Ah, je ne peux pas croire cela, tu t'es laissé emballer. Il dit, oh non, je ne me suis pas laissé emballer, viens et découvre, viens et vois, viens. Le long de la route, ils allaient. Finalement, il marcha jusqu'en la présence où était Jésus, peut-être debout dans l'auditoire quelque part. Jésus se tenait là, regardant alentour, et après un peu de temps, il regarda là au loin, et il vit Nathanaël se tenant là. Il dit, « Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Cela l'a fait sortir de son allure empesée. Cela a fait sortir le vent des mâts. « Voici un Israélite en qui il n'y a pas de fraude. » Cela est Dieu, dit-il. Rabbi, ce qui veut dire enseignant. Rabbi, depuis quand me connais-tu? Je ne t'ai jamais rencontré. Je suis un étranger dans cette congrégation. Je ne suis jamais venu ici. Comment pourrais-tu me connaître? Il dit, avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. C'était Jésus hier. Est-ce vrai? S'il est le même, il est le même aujourd'hui. Prenons une autre nation de Jean. Il y avait une nation de Jean. Il y avait seulement trois nations de Jean. Et c'est Cam, Sem et le peuple de Japheth. Voyez-vous? C'est exact. C'est là la Pentecôte où l'évangile alla vers les Juifs, ensuite aux Samaritains et ensuite aux Gentils. Voyez, Cam, Sem et le peuple de Japheth. Ce sont les trois nations. Maintenant, il y en a deux nations qui cherchent un Messie. Pas nous les Gentils. Nous avions un bâton sur le dos, nous étions païens, adorant des idoles, mais pas Cam et Sem. Maintenant, il y en a un autre. L'autre nation était les Samaritains. Ils étaient des demi-juifs et gentils. Cela avait été fait par le mariage du péché du temps de Corée là-bas, et ils se sont éloignés, et ils croyaient en Dieu, ils cherchaient un Messie. Alors Jésus partit. Il se représenta lui-même devant eux. Il vint aux Juifs, les siens, mais il devait passer par la Samarie. Saint Jean 4, l'avez-vous déjà lu? Il devait passer par la Samarie. Alors il vint à la ville de Sichar. Alors il envoya simplement ses disciples pour acheter de la nourriture. Et pendant qu'ils étaient partis, si vous êtes déjà allé là-bas, c'est un panorama, un panoramique, un puits. Il y a une pompe de la ville où on peut dire, où ils laissent sortir l'eau. Vous savez, les femmes viennent, elles prennent le seau, elles laissent descendre le seau pour puiser l'eau. Elles placent cela sur leur tête. Et maintenant, les femmes de mauvaise vie, les mauvaises femmes, elles ne pouvaient pas venir avec les femmes qui étaient bonnes. Il n'y avait pas d'association entre elles en ce jour-là. Une femme était mauvaise, alors elle restait dans sa propre compagnie. Pas aujourd'hui. Elles sont toutes ensemble, mais elles font simplement. Mais elles, c'est tout comme piquer sur le milieu d'un œuf. Vous faites de cela toute une lumière rouge, voyez-vous? Alors cette femme de mauvaise réputation va là. Il est environ 11h30 ou midi moins le quart, environ 7h du jour. Elle va là, marchant, cherchant de l'eau, un seau d'eau. Comme ici, elle plaça la vieille poulie ici, et le dévidoir. Elle laissa tomber ça dans le puits pour prendre un seau d'eau. Et juste au moment où elle commençait à le remonter, elle entendit quelqu'un dire, « Femme, veux-tu me donner à boire ?» Elle regarda, là, il y avait un juif. Et ils n'avaient pas de relation les uns avec les autres. Un homme d'un âge moyen, il avait environ 30 ans. Mais la Bible dit qu'il en avait l'air d'en avoir 50. Vous savez cela. Ils lui dirent, tu te dis que tu as vu Abraham et tu as un homme de pas moins de 50 ans. Il en avait seulement 30, voyez-vous. Il dit, je suppose que son ministère l'avait abattu quelque peu. Alors ils lui dirent, tu dis que tu as vu Abraham, mais maintenant nous savons que tu es un démon. Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Comprenez, il est le Dieu d'Abraham. Certainement il l'était. Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis, certainement. Et maintenant, le voici assis au puits. Il dit, femme, donne-moi à boire. Elle dit, ce n'est pas la coutume. Nous avons la ségrégation ici. Comme ils avaient l'habitude dans le sud, avec les gens de couleur et les blancs, vous comprenez? Elle dit, nous avons la ségrégation ici. Ce n'est pas la coutume que tu me demandes, toi un juif, tu me demandes à moi, une femme de Samarie, de te rendre une faveur ou n'importe quoi. Nous n'avons pas de relation les uns avec les autres. Elle était une petite prostituée, vous savez. Alors, probablement une jolie petite femme. Elle se tenait là. Peut-être ses boucles qui descendaient sur son visage, vous savez. Elle est sortie toute la nuit. Et alors, elle dit, ce n'est pas la coutume pour toi de me demander à moi, une femme de Samarie, une telle chose. Il dit, femme, si tu savais qui te parle, si tu savais à qui tu parles, tu me demanderais toi-même à boire. C'est le Messie aujourd'hui, voyez-vous. Tu me demanderais à boire, je te donnerais de l'eau que tu ne viens pas puiser ici. Mais, comment dit-elle, le puits est profond, je n'ai même rien pour puiser, d'où me donnerais-tu de l'eau? Elle dit, notre père Jacob, voyez-vous, elle était samaritaine, mais elle appelait Jacob son père aussi. Notre père Jacob a bu à ce puits, ton troupeau, ta famille, et par contre tu dis que tu as de l'eau meilleure que ceci, elle dit, tu dis adorer, toi étant un juif, tu dis Jérusalem, et nous nous disons sur cette montagne. Il dit, femme, le temps arrive, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit, car Dieu est esprit. Vous comprenez? Alors vous voyez où nous en sommes aujourd'hui. Si cela devait être aujourd'hui, un mot contre cela ne sera jamais pardonné, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Alors vous voyez ce que cette génération a fait? Maintenant, pensez-y, pensez fortement, pesez ces paroles solennelles. Maintenant, ces juifs ont dit, cet homme fait ces choses par Belzébul, il est un démon, un diseur de bonne aventure. Nous savons que les diseurs de bonne aventure sont des démons. Alors, ils dirent, cet homme est un diseur de bonne aventure. Alors, il leur pardonna pour l'avoir appelé un diseur de bonne aventure. Mais après qu'il soit mort et que le Saint-Esprit revient, ensuite, c'est différent, voyez-vous. Et cela, c'est dans la génération des gentils, maintenant remarqués. Maintenant, les Juifs l'ont déjà vu et ils l'ont condamné. Les Samaritains l'ont reçu. Elle dit, Monsieur, je crois que tu es un prophète. Que vas-tu faire avec cela, Samaritaine? Je crois que tu es un prophète. Nous savons que lorsque le Messie sera venu, il nous dira ces choses. Voyez, il connaissait le Messie. Qui il serait? Il disait, nous savons que le Messie, qui est appelé le Christ, quand il viendra, il nous dira ces choses. Mais qui es-tu? Es-tu son prophète? Il dit, je le suis, je le suis. Et sur ceci, maintenant écoutez, sur ceci, elle abandonna sa cruche, elle courut dans la ville, et elle alla pour dire à l'homme dans les rues courant à travers la ville, disant, venez voir un homme qui m'a dit les choses que j'ai faites. N'est-ce pas le Messie? Et la Bible dit que toute la ville a cru en lui parce que la femme avait dit ceci, ce qu'il leur avait dit parce qu'il était le Messie. Maintenant, si c'était le Messie hier, et il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, ce sera le même signe aujourd'hui. N'est-ce pas vrai? Combien sont d'accord avec cela? Certainement, oui, c'est le même, très bien. Maintenant, est-ce que ce sera un homme différent? Non, il aima, il cria, il pleura, il dormit, il alla dans le désert, il alla à la pêche, il fit comme tout le monde. Il était juste un homme, vous comprenez, mais par contre, il était le Messie, loin. Maintenant, nous souvenons que dans la Bible, ce qui nous est dit là, loin en arrière, nous allons à plusieurs écritures, prouvons que la Bible dit qu'il y aura un jour qui sera ni jour ni nuit, juste un jour sombre, les organisations et les églises, et assez pour être sauvés, mais au temps du soir, il y aura de la lumière. Combien ont-ils déjà lu cela dans leur Bible? Très bien. Maintenant, d'autres mots, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Le même soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Eh bien, quand le Fils de Dieu, F-I-L-S, se leva dans l'est, sur les gens de l'est, la civilisation voyage avec le soleil, et nous sommes sur la côte ouest maintenant. Si vous traversez, vous retournerez en Chine, vous serez de retour en Chine. Alors le même Fils qui brilla dans l'est, brille maintenant dans l'ouest, avec le même baptême du Saint-Esprit, les mêmes signes, les mêmes prodiges, le même Messie. Est-ce vrai? Il y aura de la lumière au temps du soir. Le temps qui est de la gloire, vous le trouverez. C'est vrai. Nous sommes au soir, la lumière du soir. Le soleil se couche. Le Messie est au milieu de nous, le Fils de Dieu, dans la forme du Saint-Esprit, au milieu de nous. Croyez-vous cela? La congrégation dit, Amen, nos débiteurs. Croyez-vous que je sois ton serviteur? La congrégation dit, Amen. Croyez-vous que ce que je vous ai dit est la vérité? La congrégation dit, Amen. Croyez-vous l'histoire de cet ange hier matin, avant-hier matin? L'assemblée dit, Amen. Croyez-vous cela? L'Assemblée dit une nouvelle fois, Amen, nom de l'éditeur. Alors laissez le Dieu du ciel, que le Dieu qui m'est apparu sous la forme de cet arc-en-ciel, qu'il parle et que mon corps soit consacré pour lui, mon âme, mon esprit et ma pensée soient consacrés pour sa gloire. Quand je cherchais ce dernier écureuil, je savais que c'était le dernier. C'était alors 3 minutes avant 10 heures et j'avais dit que ce serait 10 heures. Espace non enregistré sur la bande originale anglaise de l'éditeur. Dalton, un baptiste assis ici d'en bas au Kentucky, assis juste là. Combien d'enfants avez-vous, Ed? 12 enfants. Se tenant là, il demanda pour ses enfants. Je suis sorti du bâtiment. Ed est venu vers moi et j'ai dit, Ed. Et le Saint-Esprit était sur moi disant, donne-lui cela, donne-lui. te dit, je te donne tes enfants, chacun d'eux, sauvés et baptisés. Là était son adolescent assis à la maison, attendant, pleurant, il fut sauvé depuis qu'il est venu ici. Ce frère Baptiste, Delton, oh, comme il est merveilleux quand il parle. Je lui demande maintenant pour sa gloire de se montrer lui-même qu'il est le Christ que je dis la vérité. Maintenant, afin que l'incroyant n'ait pas de moyen de s'échapper, je veux que les gens qui sont ici, qui sont malades et qui sont dans le besoin, qui ont besoin de Dieu, que je ne connais pas, des étrangers parmi nous, des gens que je ne connais pas qui sont ici, et vous avez besoin de Dieu, levez vos mains, tous les gens, partout. Cela, c'est très bien, c'est général, à peu près partout, je suppose. Des gens que je ne connais pas, si j'appelle quelqu'un que je connais, que vous me connaissez, et que nous sommes familiers l'un avec l'autre, ne dites rien, gardez simplement votre paix. S'il est le Fils de Dieu, lequel il est, et que mon message est vrai, et cet ange, quand il était 10h-3, j'ai dit, ô Dieu, qui m'est apparu il y a quelques instants dans cet arc-en-ciel. C'est 3 minutes, je ne vois pas l'écureuil, 3 minutes, tu devras m'en apporter un. Et Dieu, que Dieu soit mon juge, je l'ai dit solennellement avec ma main sur la Bible, ne croyez pas que je fais serment, la Bible ne dit pas cela, elle dit de ne pas faire cela, mais que Dieu soit mon juge, un écureuil est descendu directement de l'arbre et il se plaça juste correctement. Il n'a jamais manqué, il ne l'a jamais fait. Plusieurs sont présents ici pour connaître ces choses. Je sais qu'il est ici, le même Dieu. Il y a des cartes de prière qui ont été données. Je ne les veux pas. Nous prierons pour eux dans quelques minutes. Ils montreront la ligne. Je connais des gens qui sont ici ou quelqu'un d'autre. Je veux des étrangers alors. Je veux des gens qui ne me connaissent pas. Je veux que vous commenciez à penser. Je veux que vous commenciez à penser, à prier en disant, ô Dieu, cet homme ne me connaît pas. Un jour, une petite femme s'est faufilée à travers une foule. Elle avait une perte de sang. Et elle dit, quand ils disaient tous, le voici, regardez-le, voilà ce Galiléen, et ainsi de suite. Tous ces rabbins, et ainsi de suite, se tenant là, disant, rabbin, nous recherchons un signe de toi. Et ainsi de suite, comme cela. Cette petite femme a dit, je crois qu'il est le Fils de Dieu. Et je crois que si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai rétabli. Combien savent cela? Elle le toucha. Pas qu'il puisse le ressentir, mais il s'est arrêté, il s'est tourné, disant, qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché. Et tout le monde restait bien tranquille. Il dit, quelqu'un m'a touché. Il dit, qui m'a touché? Et il regarda alentour, jusqu'à ce qu'il trouve la petite femme. Elle ne pouvait pas se cacher elle-même. Elle ne pouvait pas trouver cela. Il la trouva, disant, ta foi t'a sauvé. Il lui dit que sa perte de sang était arrêtée parce qu'elle avait cru et que sa foi avait touché son vêtement. Croyez-vous cela? Très bien. Maintenant est-il un souverain sacrificateur aujourd'hui qui est assis à la droite de Dieu intercédant et le grand souverain sacrificateur de notre confession? La Bible ne dit-elle pas qu'il est le souverain prêtre qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités? Est-ce vrai? Très bien. Si vous êtes malade, commencez à prier et dites, Seigneur Dieu, je viens d'entendre un message. Je ne connais pas cet homme. Je suis ici dans le tabernacle. Je ne viens pas ici. Ceci n'est pas mon église locale. Je viens de quelque part ailleurs. Je ne connais pas cet homme. Mais il semble rendre cela si positif que c'est toi. Il a dit que tu lui as apparu, que son message est vrai. Et comment tu fais ces choses? Maintenant, je ne connais pas cet homme, mais je te connais. Alors s'il s'est consacré pour toi, et que tu te sers de son corps pour parler tes propres paroles à travers lui, fais qu'il me parle. Laisse-moi toucher ton vêtement, Seigneur, et voyez s'il le fait ou pas. Voyez s'il est Dieu. S'il est encore Dieu, il peut utiliser mes lèvres pour parler la même parole qu'il apporterait, car il n'a pas de lèvres, sauf les miennes et les vôtres. Il n'a pas Dieu, sauf les nôtres. Alors il descend simplement, et il opère à travers son Église, au travers de notre corps. Croyez-vous cela? Il agit lui-même. C'est ce qu'il a dit. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Est-ce vrai? Les mêmes œuvres, vous les ferez. Espace non enregistré sur la bande originale anglaise, notre éditeur. Cela prouve que c'est vrai. Peu importe toutes vos dénominations. Oh, alléluia! Le bon vieux frère Kidd et la sœur Kidd sont assis ici tous les deux. Ils ont 80 ans prêchant avant même que je ne sois né. Et là, il reposait l'autre matin en train de se mourir avec un cancer, il y a environ 2 ans. Cela était là au travers de la prostate, là, habitant loin en Ohio. Ils sont des amis précieux pour moi. Sœur Kidd m'a appelé disant, Billy, vous feriez mieux de vous hâter, il est mourant maintenant. Et Billy et moi avons quasiment brûlé ma vieille voiture de seconde main en montant là-bas. Et quand je suis arrivé là dans la chambre, aussitôt que je suis arrivé là, le Saint-Esprit parla. Ainsi dit le Seigneur. Et le voilà debout, un témoin de la gloire de Dieu. Il a même tout bouleversé son docteur. C'est tout simplement, il est Dieu. Pourrais-je faire cela? Non, monsieur. Mes paroles ne sont pas plus que celles d'aucun autre homme. Mais c'était ainsi dit le Seigneur. Amen. Il y a des années, dans les montagnes du Kentucky, une toute petite église de Dieu, ou quelques-uns d'eux, escaladant de haut en bas les collines, battant le maïs avec un morceau de matériel, avec la vieille mère Kidd, pour nourrir un groupe d'enfants, lavant au-dessus d'un bain, afin qu'ils puissent envoyer son mari dans le champ missionnaire. Et les voici, 80 ans, assis ici aujourd'hui, jouissant de l'évangile de Jésus-Christ, conduisant 100 et quelques milles chaque dimanche matin. Chaque dimanche que je prêche ici, environ 160 kilomètres, s'ils peuvent en entendre parler, certainement nous leur envoyons une invitation s'ils veulent venir. Que Dieu bénisse leur bon vieux cœur, c'est vrai. Je veux que chaque personne ici ce matin leur donne la main s'ils le peuvent pour les bénir. Maintenant, prions. Oh, je suis si content de savoir qu'il est Dieu. Quel sentiment, vous dites, pourquoi est-ce que vous retardez, frère Branham? J'attends après lui, voyez-vous, je prêchais, mais ceci est une autre onction. Et s'il vient et qu'il le fait, combien y a-t-il ici alors qui sont malades, qui l'accepteront comme celui qui peut les guérir? Levez simplement vos mains, tous les gens malades, s'il le fait. Levez vos mains, tous ceux qui sont malades et qui peuvent voir ce Messie, Christ.